Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh ben,
bonjour. Oui, vas-y, vas-y. Tu
bonjour. Bonjour. Bonjour.
Et vous dites pas bonjour, vous.
Bonjour.
Bonsoir.
Ils disent bonsoir. Donc, eh bien, nous sommes le jeudi 20 février 2003. Nous sommes sur Quoique, la radio qui fait ce qu'elle
peut.
Darty, t'as rien dit.
Et j'ai rien dit parce que sinon j'allais avoir un choc frontal avec Numa. Donc, et c'était pas le but de l'opération.
On va recommencer pour toi. Quoique, la radio qui fait ce qu'elle
peut.
Il a fait des progrès depuis la semaine dernière. Tu t'es entraîné?
Non.
Non.
Il est soliste en fait.
Donc alors, Quoique, c'est toujours une émission qu'on télécharge sur internet, sur le site www.quoique.org. Mais ça, si vous nous écoutez, vous le savez.
Déjà.
Donc Darty veut dire quelque chose.
Je vais rappeler que j'ai toujours pas fait l'alias Sprunz comme voilà, je l'avais promis, donc bon, bref, donc, je suis pas même de confiance. Voilà.
Voilà. C'est quoi l'alias Sprunz?
Si t'avais suivi l'émission de la semaine dernière, il y a deux semaines,
pour
tu saurais.
C'est le www.
Voilà. D'un autre côté.
Qui suit.
D'un autre côté, ça permet d'avoir plus de monde parce que www, j'en avais oublié un, c'est plus facile à retenir. Mais bon,
ça dépend,
Sprunz,
si t'appelles Sprunz.
Ouais, mais il va y avoir des fautes d'orthographe et tout, ça va être une galère pas possible. Donc alors, aujourd'hui, avec nous, il y a toujours la même équipe. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On n'a rien gagné, mais on ne désespère pas. Donc alors, avant, j'aimerais vous faire une petite aparté. Max Pécasse, le roi du titre de film, nous a quittés récemment, la semaine dernière.
Putain, j'étais même pas au courant, c'est dégueulasse. On ne nous prévient pas.
Oui, le roi des films de titre. D'ailleurs, je vais vous en citer quelques-uns, vous allez vous en rendre compte. Marche pas sur mes lacets. Embraille bidasse, ça fume. On est venu là pour s'éclater. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Les branchés à Saint-Tropez. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez.
Ah oui. Celui-là, ça c'est un film culte.
Arrête-moi si tu peux. Ah non, ça c'est le dernier Spielberg, ça, je me trompe. Mais c'est peut-être en hommage d'ailleurs. Donc enfin bref. Il y a quelqu'un avec nous qui est évidemment très triste.
Tu as oublié la liste de films porno que je n'ai pas
pris. Je suis frigide et alors, je suis une nymphomane, je connais aussi.
Hein. Surtout.
S'il te plaît. Donc il y a quelqu'un avec nous, une fan de cinéma, qui évidemment a versé une petite larme, qui est désespérée même. Hein. Mais elle est là avec nous ce soir et on va essayer de lui remonter le moral. Et d'ailleurs, elle va, pour se changer les idées, elle va nous parler un petit peu de la distribution des films en France.
Ouais.
C'est Flo.
Ouais, parce qu'à cause des gros méchants distributeurs, Max Pécasse n'était pas assez distribué.
Voilà, c'est vrai. Surtout sa période porno.
Surtout sa période porno, oui. Plus, ils ont fermé tous les cinémas porno à cause des cassettes vidéo. C'est triste.
C'est dramatique.
C'est dramatique.
Alors avec nous, il y a aussi une autre jeune fille, notre hôte encore une fois d'ailleurs. Et cette jeune fille maîtrise les technologies modernes avec une aisance hors du commun. Je vous promets, il fallait la voir samedi soir en début de soirée avant de sortir pour programmer son magnétoscope, la notice à la main. C'est extraordinaire, j'en suis encore tout bouleversé. Et tout ça pourquoi elle a fait ça? C'est pour nous, elle a enregistré les Victoires de la musique. Elle l'a regardé un petit peu plus tard, elle a pu sortir un petit peu, aller manger au restaurant et tout. Et maintenant, elle va nous faire une magnifique chronique sur les Victoires de la musique. Mesdames et messieurs, Béa. Maintenant, Nous allons parler d'un autre Gugus, un hors du commun. Libre comme l'air, c'est son expression favorite. Le Midi Libre, c'est son journal préféré. Il est libre max, c'est sa chanson préférée. Il faut pas s'étonner.
Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Hein.
Oui, ben ça. Et il faut pas s'étonner si aujourd'hui il va nous parler du développement libre, d'Arty.
Du logiciel libre.
Du logiciel libre, pardon.
Oui, mais on peut le développer.
C'est vrai. Alors d'ailleurs, toi, tu fais bien de parler parce que qu'est-ce qu'elle nous a déniché encore cette semaine? Un truc sur les parasites interdits au Canada. Alors c'est vrai que c'est bien bizarre tout ça, hein. On peut se poser des questions, mais n'ayez crainte. Notre reine de l'abracadabrantesque, c'est pas facile à dire ce truc-là. Hein.
T'inquiète pas, tu pourras aller au Canada avec tes morpions de toute façon.
C'est avec gentil. Un ténia aussi.
Elle va tout nous expliquer. Valérie! On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais aujourd'hui, il est là avec nous, pour notre plus grand plaisir. Il va nous parler des parasites qui dévorent nos livres préférés. Numa.
Je connais des lecteurs qui dévorent des livres.
Mais voilà.
Mais merci pour lui.
Enfin, cela dit, moi, la mention de la solitude, il a toujours pas été dévoré. Hein.
Par toi.
Tu l'as pas lu encore ?
Bah non, bon, encore.
Je crois que tu es le seul à cette table. Hein. Voilà, on va lever les bras. Tout le monde lève le bras. Toi,
ah oui, ça c'est
seul.
Visuel.
Le quoi ? J'ai pas suivi.
Ah bah voilà.
Voilà, on est deux. C'est bon.
Donc eh ben, on va attaquer tout de suite sur les chroniques. Hein. Y a un petit thème sur cette émission, qui est les parasites. On en reparlera un petit peu plus tard, on développera un petit peu tout ça. Voilà. Et on va commencer avec Flo, qui nous parle donc de la distribution des films. À toi, Flo.
Oui, chacun ses parasites. Pour moi, les parasites, en fait, je vais les situer au niveau du cinéma, un peu dans les distributeurs, etc. J'aurais pu parler d'un film parlant de petites bestioles, etc. Mais bon, arachnophobie, etc., etc. Bon, bref, on passera dessus. Donc, moi, je vais vous parler de mes parasites à moi, qui sont les distributeurs, les films, les grands complexes. Alors, tout le monde n'est pas nécessairement parasite. T'as eu peur de quoi ?
De tes parasites.
C'est grand complexe, c'est tout.
Oui, mais les parasites à moi, je les partage avec Numa. Donc au départ, alors qu'est-ce qu'un film ? Un film, c'est un auteur, un réalisateur, des acteurs, pardon, un réalisateur, des techniciens et surtout des producteurs. Et là, le producteur...
C'est marrant, pour moi, un film, c'était des images et du son.
Ah oui, mais bon, si tu veux, pour que ça fasse... Alors, j'ai un parasite bleu en face de moi qui me perturbe assez fort. Donc voilà, le producteur, ça pourrait commencer à rentrer dans la classe des parasites parce que c'est un type qui demande des sous et selon le cinéma auquel on s'adresse, par exemple le cinéma hollywoodien, en fait le producteur va influencer très fort le réalisateur, etc. Enfin bon, c'est très désagréable comme affaire. On en parlera peut-être une autre fois. Et enfin après, pour qu'un film devienne un film, il faut qu'il arrive dans des salles. Et pour qu'il arrive dans les salles, il faut le distributeur. Alors là se pose le grand problème. Bien résumé par Jean-Michel Rey, directeur de Réseau Film, qui est à la fois une boîte de production et de distribution, qui dit tout simplement que le choix de la date de sortie d'un film doit dépendre de l'industriel et non de l'artiste, et la distribution n'est pas son métier. Il est à noter que la date du film, pour ce qui est de la date du film et que le fait que la distribution n'est pas le métier du réalisateur, il n'y a pas de problème, c'est pas son truc, c'est pas le mien non plus. Le distributeur est à voir comme un agent, un galériste pour un peintre. Enfin bref, c'est le distributeur qui va décider de ce qui va se passer, de ce qui va arriver dans vos salles. Et on sait quoi penser du choix des distributeurs en général. Le problème de l'industriel, quant à l'acteur, c'est que effectivement l'auteur.
Oui, quoi, l'auteur ?
L'auteur est complètement dans les choux pour ce qui est des sous. Et c'est vrai que si on faisait confiance à l'auteur...
Les auteurs ne s'intéressent pas à l'argent.
Ben, quand il arrive dans la boîte, oui, mais bon, c'est ton film, c'est ton bébé. Tu
ah
voudrais
non,
pas...
c'est pas le mien. Non.
Ouais, bon,
ils s'intéressent à la date de sortie de leur film.
Quoi. Ça les intéresse, mais pas de manière, dirais-je, de temps en temps, un petit peu irréaliste, dirons-nous.
Ça a l'air intéressant s'ils ont le choix dans la date, hein.
Bravo.
L'intérêt de la date, vois-tu, c'est de ne pas sortir ton film au mois d'août quand Paris et toutes les autres villes sont vides, que tout le monde est à la plage.
Pas toutes les villes, hein.
Ouais, bien Biarritz, c'est
regarde à Saint-Tropez.
Oui, il n'y a pas que
oui,
Paris.
Mais à Saint-Tropez.
Les gendarmes à Saint-Tropez, ils sont sortis au mois d'août, ça fait un tabac à Saint-Tropez.
On se calme et on boit frais à Saint-Tropez.
Ouais, bon, à Saint-Tropez, bonjour, quoi. Ça, le cinéma, bref. Donc voilà, donc le problème des distributeurs, des réalisateurs, de tous, c'est d'éviter donc les mauvaises dates, les mauvaises sorties. Et c'est là que se pose un problème, parce que tout le monde veut que son film sorte à la bonne date. Et alors, en exemple, le 8 janvier 2003, sont sortis en même temps Un homme sans l'Occident de Raymond Depardon, Rapone de Carlos Regalas, le LIE Expressway.
Long Island. C'est chez nous, ça ?
Non, c'est pas de chez nous, c'est américain. Long Island Expressway de Michael Cuestas et En attendant le bonheur d'Abderrahmane Sissako. Alors, sur la même semaine, ça fait 4 films d'arrêt essai, une semaine ça fait 7 jours. Ça va quand même assez vite.
Non, mais il en sort combien, Baron, des films d'arrêt essai ?
Nombreux. Non, plus de 4. Mais enfin bon, j'arrive au problème.
Moins 8.
Un peu plus. J'arrive donc au grand problème.
12 alors.
Mais veux-tu me laisser en placer une ?
Faites vos jeux.
Attends, c'est le grand problème. Là.
Attends, si tu veux des chiffres, les chiffres arrivent.
Les chiffres arrivent.
Alors, l'intérêt de la distribution, c'est quand même la rentabilité. Alors, il faut savoir que la France compte environ 5000 salles actives. Ce qu'on appelle salle active, c'est pas le petit ciné-club machin là, qui va sortir. Enfin, la mairie du quartier qui sort un écran une fois de temps en temps.
Les salles actives, ça monte, alors que les stalactites, ça descend.
Merci.
Bravo.
Jingle. Donc, 5000 salles actives, c'est-à-dire des salles qui sont là toute l'année. Il y en a à peu près 200 à Paris. Et il faut savoir que les films sortent sur un nombre de copies qui va de très loin, enfin de rien du tout à très loin. Ça peut aller de 1 à 1000 et plus. Alors, les sorties exceptionnelles, pour vous donner une petite idée, n'oubliez pas le chiffre de 5000 salles en France. Donc, sorties exceptionnelles, Taxi 3, 950 copies pour la France entière. Donc, 950 salles mangées. Harry Potter et la Chambre des Sorciers, 1000 salles.
Un cinquième ?
Oui. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 900. Spider-Man, 900. Gangs of New York, 800. On a bouffé toute la salle si les 5 films sortent en même temps.
Bon, en vrai, il y a que ces films-là. Si tu fais un film à moins de 600, t'es un blaireau, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est le problème de certains, voilà.
100 millions.
Il y a aussi des films où le nombre de copies, il est non communiqué. Alors, ça fait combien ?
Après, ça devient problématique parce qu'on a du mal à jauger.
Bah oui, parce que c'est pas communiqué.
Voilà. Mais bon, on arrive donc, à savoir.
On sait pas. Mais on arrive à savoir quand même.
C'est les mecs qu'on ont fait 1800 qu'on fait un bide.
Qui arrivent à avoir les copies quand même pour projeter leur film.
Ah.
Et oui. Alors après, on arrive dans une fourchette un peu plus raisonnable, enfin entre guillemets, des films qui sortent entre 400 et 500 copies. Oui.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des films belges dont on fait 6000 copies pour la France ?
Certainement ce film belge. Oui, alors après arrivent donc les films de taille moyenne, 400 à 500 copies. Alors arrive sur nos écrans Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo, 470 copies seulement, c'est étonnant.
Il y a Nathalie Baye dedans.
Oui, ça doit être ça, c'est ce qu'il doit faire de chuter les
films. C'est fou ça, hein ?
Mais non, mais c'est pour ça, c'est on baille. Désolé.
Et Daredevil qui arrive.
Non, ce n'est pas un rire préenregistré. C'est Darty. Surtout, ne vous méprenez pas. Vas-y, continue.
Voilà, donc Daredevil qui arrive entre 500 et 800 copies. Alors, ces films, on a du mal à les classer. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, ils méritent vraiment ces copies, ce nombre de copies. Ça dépend, en fait, de l'audience qu'ils vont avoir. On ne peut pas vraiment juger là maintenant. Et puis après, il y a vraiment les films oubliés. Alors là, ça devient carrément dramatique parce que Iran, sous le voile des apparences, qui soit est un documentaire moins représenté que les autres, mais ne sera distribué, ce pauvre film belgeo-français, qu'entre 2 et 6 copies pour la France entière. Je vous rappelle, 200 salles sur Paris.
Où ça ?
Quoi,
les salles, tu peux citer les salles hein, sur 2, c'est bon.
Il n'est pas encore sorti.
On ne sait pas encore dans quelle salle.
Voilà, arrive sur la France 2 à 6 copies. Donc on peut imaginer déjà au moins peut-être entre 1 et 3 copies à Paris. Dans le meilleur des cas, ça en laisse une ou deux à la province. Il faudra qu'ils attendent la suite. Terra Incognita, Liban, France, 5 copies. Et alors, Le Pompon, L'Arche russe, d'Alexandre Sokourov.
Le Pompon.
C'est bien comme titre, votre film, c'est un Max Pécasse.
N'est-ce pas?
Le pompon sur le haut du chapeau.
C'est qu'on a un mot, c'est pas lui.
Et d'ailleurs, Max Pécasse, en fait, combien il faisait avec ses films? Ou alors, il faisait peut-être
mais
que
ça,
des téléfilms.
J'aimerais bien trouver, il faudrait que j'arrive à remonter dans les...
Il y a un site qu'on mettra en ligne sur le site. Oh, les redondances. Et il parle de tout ça, et c'est passionnant. Pour ceux qui aiment Max Pécasse, hein, pour les autres...
De là à trouver maintenant le nombre de copies qu'on... Dans lesquelles, sur lesquelles Max Pécasse était distribué.
Le nombre de copies, je ne sais pas, mais le nombre d'entrées, oui.
Ah.
C'est stupéfiant.
C'est stupéfiant.
Surtout pour la période porno. Mais enfin bref, continue.
Oui, donc je reprenais qui me chagrine particulièrement, de l'Arche russe d'Alexandre Sokourov, qui est quand même pas n'importe qui, quoi. Trois copies sur la France entière.
Alexandre
Sokourov. Ah, bah. Oui, d'accord. Un film. Un
bon sang, mais c'est bien sûr.
Voilà. Donc trois copies, autant dire deux sur Paris. Bon, mais voilà le reste. Hein. Il vaut mieux habiter à Paris qu'en province. Après, on se plaint de ce que je parle de Paris, mais c'est normal. Et alors.
Oui, mais justement, si tu me permets, il y a certains bleds, et c'est quand même la majorité de la France, qui ont une petite salle de cinéma quand ils en ont une.
Ben ouais, mais
qui passent, mais qui passent un film par semaine.
Qui passent un film.
Et c'est grand public. Donc on peut quand même pas leur reprocher de ne
ah
pas
non,
faire
on peut
un
pas
film
leur reprocher
russe
de pas passer un film russe.
Qui va intéresser deux pélos, sinon le cinéma ferme.
Non, on peut quand même pleurer un truc, c'est que si cette pauvre salle décide d'avoir le film russe, il va falloir qu'elle attende un bon moment, parce que c'est pas
mais,
gagné.
Mais pour les autres, c'est vrai aussi.
Et
il y a des
bleds
qui les ont un mois après.
Mais je sais, moi à Bourgueil, je les avais même jamais. C'est bien ça, c'est bien dramatique. C'est le drame de la distribution.
Je me souviens d'un film il y a deux ans. J'ai goûté sur France Inter. C'était le dernier Moki. J'étais à Poitiers à ce moment-là. Et ben, il est jamais venu.
Et donc, pourtant, Poitiers, c'est vraiment une ville de cinéphiles avec un cinéma. C'est vraiment le drame de la distribution. Pendant ce temps-là, on distribue Harry Potter à plus de 1000 copies. Et voilà quoi. Alors, pour continuer sur le triste décompte, alors dans les semaines de sortie, le 5 mars arrive, sur quelques films, je ne sais pas, Valérie est en train de tourner les pages sans moi, arrive 1015 copies.
Oh, Valérie.
Voilà, sur 6, 7, 8 films, à peu près 8 films, 1015 copies. La semaine du 12 mars, même chose, grosso, 1258 copies, sans compter Star Trek. Le nombre de copies n'a pas été communiqué, donc on n'ose même pas imaginer. Tout ça s'ajoute dans la première. N'oubliez pas que vous n'avez que 5000
ça. Et je tiens à dire à nos auditeurs que Florence fait les additions comme ça, à l'œil. Je la regarde, elle a pas, c'est pas écrit, et elle vous fait ça, mais c'est une star du calcul mental.
Oui. 19 mars, 1330 copies. En d'autres termes, au bout de 3-4 semaines, tous les films que vous avez vus sont tous soit partis de l'écran, soit multiprogrammés, enfin bref.
En DVD.
C'est le cauchemar.
En DivX. On les voit avant en DivX, avant qu'ils soient sortis au cinéma.
Il faut attendre un certain temps, il y a la loi.
Non, ouais.
Bah ouais,
oups.
Ouais, le DivX de Loana en train de fourrer, moi je l'ai vu vachement avant que la loi autorise à ce qu'on puisse le diffuser. D'ailleurs, c'est toujours pas autorisé que je sache.
C'est qui fourré?
Bah, avec Loana quoi.
Ah, bon, vas-y, continue.
Donc,
continue.
D'où mon grand drame avec.
Il des bêtises.
D'où mon grand drame et ma grande haine envers les grands complexes qui vont passer des petits films dans des films qui n'ont rien à faire dans leur salle. Et je pense que ça ne viendrait à personne l'idée de venir voir Star Wars dans une petite salle d'arrêt essai. Eh bien, la réciproque est vraie, quoi. On aimerait bien ne pas voir nos films dans leurs grands complexes dans des salles pourries. Voilà, je voulais vous parler du mariage de Rana aussi.
La prochaine fois.
Je crois que j'aurai pas le temps. Alors, je vous dirais juste que c'est un film parlant des Palestiniens, que c'est vachement beau, beaucoup d'humour, que ça parle de la vie à Jérusalem. Et c'est l'histoire d'une fille de 18-20 ans qui veut se marier, enfin, qui n'a que de 5h du matin jusqu'à 16h pour se marier. Sinon, elle suit son père
Alors,
en Égypte.
Visiblement, c'est une fille avec des gros seins, d'après le mime de Numar.
C'est la radio, ça se voit pas bien.
Et elle a des seins hallucinants, elle a un comportement... On se croirait en France. Et pensez à cette gamine qui a le choix entre trouver un mari avant 16h ou prendre l'avion avec son père, aller en Égypte et se coller un voile sur la tête pour finir les études. Ça énerve un peu, surtout quand on la voit essayer de traverser tout Jérusalem.
Écoute, ce sera passionnant, cette prochaine chronique. Merci beaucoup, Flo.
Allez voir le mariage de Rana avant qu'il ne disparaisse des écrans.
Je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, Béatrice et les victoires de la musique. Alors, la musique a-t-elle vraiment gagné?
Eh ben, je vous le dirai un petit peu à la fin, parce que les critiques d'abord.
Pas mal, ouais, finalement. Donc, je me suis maté les victoires de la musique dimanche, hein, parce que donc, je l'avais enregistré. Et si je regardais le mode d'emploi, c'est parce qu'il est tout neuf. Et que on connaît les modes d'emploi.
Les victoires, c'est pas...
Je n'ai fait aucun commentaire, j'ai juste relaté ce que j'ai vu.
En fait, c'est une victoire de l'homme sur le magnétoscope, quoi.
De la femme.
Enfin, l'homme, c'est un terme générique.
Les magnétos, à mon avis, c'est
pas des utilisateurs qui les
fabriquent. Enfin bon.
Ah ouais, quand même, c'est une femme.
Donc effectivement, les victoires de la musique, c'est pas neuf. C'était même la 18e édition. Donc, et oui, 18 ans déjà que Jeanne Masse fut proclamée meilleur espoir féminin de la chanson. Comme quoi, ça laisse de l'espoir, finalement, à nous aussi, puisque bon...
Je croyais que la France n'avait jamais rien gagné aux victoires de la musique.
Non, c'est que français.
Ah, alors je comprends, c'est pas avec Eurovision.
C'est au championnat du monde d'échecs qu'on n'a jamais rien gagné.
Non, là, les victoires de la musique, c'est justement la grande soirée des récompenses de la chanson française. Et alors, cette année, même si c'était la 18e, cette émission ne dérogeait pas à la règle. C'était long. C'était très long. 4 heures de direct, ou presque, pour 13 récompenses. Vous imaginez?
Ça, c'est parce que tu mouilles pas ta culotte devant Philippe Risoli.
Ça fait... c'était pas Philippe Risoli.
C'était sur France 2.
Ça laisse le temps de faire passer, j'étais en train de compter, à 3 minutes la chanson, ça laisse le temps de faire passer 80 chansons.
Oui, mais tu l'as enregistré.
Non, il faut donner des récompenses. Donc 4 heures de direct pour 13 récompenses, ça fait 3 récompenses dans l'heure en moyenne, c'est pas terrible.
Ouh là là. C'est tout à la fin, non?
Tu les mets où tes pubs?
C'était sur la 2.
Oh là 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 là.
Et alors justement, puisque c'était sur la 2, et ben c'était présenté évidemment par Jean-Luc Delarue, mais surtout Michel Drucker. Et c'était donc du parfait Michel Drucker.
C'est pour ça que vous parliez des championnats d'échecs. Si
allons-y.
C'était donc présenté par Michel Drucker, ce qui n'était pas pour raccourcir l'émission. D'ailleurs, Jean-Luc Delarue, heureusement qu'il était là, parce qu'il essayait par tous les moyens d'essayer de conclure, d'abréger, parce que Michel Drucker, il est très gentil, c'est même ce qui le caractérise, mais il connaît tout le monde, ou les parents de tout le monde, ou voire même les grands-parents de tout le monde, vu son âge. Et il faut qu'il le dise, donc ça prend du temps. Donc c'était encore plus long. Donc Delarue essayait d'abréger à chaque fois, mais il faut dire aussi qu'il n'était pas aidé, parce que les gagnants ont décidé cette année de faire très long aussi. Des remerciements, mais alors...
J'aime bien quand tu fais très long aussi.
Des remerciements à n'en plus finir, parce que d'abord, le temps qu'ils montent sur scène, et encore là, ça va, ils n'avaient pas mis des marches à la con, et les femmes n'avaient pas des grandes robes à la con pour se prendre les pieds dedans. Donc, quand ils arrivent sur scène, ça commence par 5 minutes d'hésitation. Hein, oui, je suis très content, je suis très ému.
Mais est-ce que c'était
bien? C'est Jacques Chirac, ça. Je suis très content. Quand il aura le prix Nobel de la paix, ça.
Il a eu le prix IG Nobel de la paix déjà il y a quelques années.
Donc après 5 minutes d'hésitation, ils commencent leur liste de remerciements qui n'en finit pas. Ça va du producteur à la maman, puisque Michel Drucker, il faut qu'il en rajoute une couche pour remercier la maman, parce qu'il connaît la maman.
Mais parce que sans la maman, il n'y aurait pas le chanteur prodigieux qui a gagné le prix.
Certes. Alors n'empêche.
C'est comme ça qu'on est le gendre idéal, hein, c'est en connaissant la maman.
Alors donc on a eu par exemple Linda Lemay, qui est aussi bavarde dans ses chansons qu'en vrai. Nous a fait,
et elle a gagné quelque chose, elle?
Elle a gagné la meilleure artiste féminine. Encore une québécoise.
Francophone.
Ben non, tout mélangé, parce qu'elle était face à Rita Mitsouko et Kerenan.
Ah, donc c'est pas francophone.
Kéré quoi?
Kerenan. Bretonne.
Ah, d'accord, c'est francophone.
Oui, mais justement, encore dans les victoires de la musique, encore des québécoises. La victoire de la musique française. Bretonnes. Parce que c'est pas la seule. Il y a eu aussi Natacha Saint-Pierre qui a gagné le meilleur espoir, puisque comme c'était voté par le public, Calogero, Vincent Delerme et Benabar qui étaient en face n'avaient pas grande chance.
Mais je suis sûr que dans 18 ans, tu seras là pour nous le rappeler qu'elle a gagné un truc. Comme Jeanne Masse.
C'est possible. Alors on a aussi eu Yves Mouvrini, alors là c'était grandiose, là j'ai passé effectivement, puisque comme je regardais, parce que même si
une fois un an sur ton appartement va sauter,
même si un an sur deux ou presque il remporte une victoire, même si là il était ex aequo parce qu'il donc il a eu une victoire pour l'album Reggae Raga World de l'année, ex aequo avec un Africain avec un accent fort marqué, un mec de Côte d'Ivoire qui a eu du mal à s'exprimer d'ailleurs. Bah, Yves Mouvrini, non, il nous a fait un quart d'heure sur la Corse. Un quart d'heure. Ça commence à s'impatienter dans la salle.
En un quart d'heure, t'as fait trois fois le tour de l'île.
Il faudrait que tu m'expliques un truc. Imouvrini, rap, machin, etc., ragamuffin, etc.
Non, reggae, raga, world.
Ah ouais, d'accord, world.
Non, mais on va pas détailler les catégories. Parce que
t'as pas la télé, puis t'as pas la radio non plus.
Si, mais bon, Imouvrini, raga, etc., ce que tu veux.
Nous, on a vu l'émission sans le son.
Oui.
Oui, passionnant pour la musique.
C'est bien aussi.
Alors, on a eu aussi Christophe. Christophe a réussi à avoir une victoire de la musique. Il
Christophe
était...
Miro
Christophe tout court.
Aline
Christophe tout court. Il a eu le
attends, le vieux Christophe.
Le meilleur vieux. Spectacle à l'Olympia. Alors là, c'est pareil. Il a sorti son petit papier et c'était délicieusement soporifique. Et là,
oui, c'est Christophe,
la rue a eu du mal aussi à lui faire plier son petit papier. Et on a eu aussi Renaud. Renaud, on le connaissait pas si bavard.
Oh, mais qu'est-ce qu'il a grossi.
Mais même au bout de la troisième fois qu'il est revenu sur scène, parce qu'il a tout gagné, trois nominations, trois victoires, donc l'album de l'année, la chanson avec Axel Red, Manhattan Kaboul, et donc la dernière victoire, l'artiste masculin. Et ben même en revenant à la troisième fois, il avait toujours quelque chose à dire. Ou la même chose.
Il avait arrêté de boire.
Mais au moins, on comprend pourquoi il s'appelle le chanteur énervant.
Ça ne se voit pas bien quand même.
C'était son grand retour et c'était sa grande année parce qu'il y a à peine un mois et demi, il a gagné déjà deux Energy Music Awards.
Oh yes.
Energy.
Energy.
Renaud.
GG.
C'est incroyable ça. Il était, incroyable. Il était présent.
Il y était. Oui, il est allé et il a causé aussi. Je ne le connais pas aussi bavard. Je pensais qu'il était plus timide.
Le mec qui a chanté Où c'est que j'ai mis mon flingue, Société, tu m'auras pas et tout. Hein. C'est bien celui-là dont on parle.
Eh ouais.
Faudrait pas vieillir.
Faudrait... Surtout qu'on grossit, visiblement.
Faudrait pas faire de cure de désintoxication alcoolique, je crois.
Non, mais c'est bien parce qu'il a aussi eu le succès auprès de son public et non, c'est un retour quand même très agréable, Renaud.
J'ai enfin pas bref, ses dernières chansons.
Les voitures à vie. Il est très bien son dernier album.
Et puis c'était aussi forcément comme toutes ces soirées de récompense, très condescendant. Tout le monde est merveilleux. En plus présenté par Michel Drucker, tout le monde est merveilleux, fantastique, génial. Donc tout le monde se congratule, ça dure des plombes.
J'aime bien tous les mots qui commencent par con que tu dis là depuis tout à l'heure. Mm-hmm. Condescendant, congratule. Mm.
À part peut-être pour Jennifer.
Il y avait Jennifer.
Non, elle n'était pas là parce
c'est
qu'elle
pas
était
vrai.
Osée venir.
Elle était en tournée, elle était nominée deux ou trois fois, je crois. Et donc elle était absente puisqu'elle était en tournée, mais on a eu droit à un petit bout de live en direct, en duplex.
Un petit bout, Jennifer,
mais
elle ne
le savait
non
pas
plus,
hein. À ce moment-là. Et là, par contre, on constate que Jennifer ne fait pas encore partie de la grande famille de la chanson française, en tout cas aux yeux de La Rue et Drucker, parce qu'il y a eu un petit jeu entre eux de 5 minutes, de non-dits, de petits regards, c'était du foutage de gueule.
Mais c'est normal, elle s'est pas encore fait de nom de famille.
Mais, oui, moi, on en parlera un autre jour.
En plus, c'était la famille TF1, donc forcément, ça les incitait pas.
Je crois que, en fait, Drucker ne connaît pas la mère de Jennifer.
Voilà, ouais.
C'est peut-être pour ça, effectivement. Il était frustré.
Et oui,
parce que nous, on adore Jennifer, nous. Hein. Il y a une chanson, ça commence « J'ai des chevaux dans la tête qui courent au triple galop ». Ça vous rappelle pas vos dimanches matins, quand même, tout ça, hein? Quand même.
Dimanche midi. Les chevaux qui tapent le dimanche matin. Hein.
Enfin bref, c'était donc très long, mais finalement il y avait quand même des bonnes choses. Alors d'abord, j'ai trouvé que la sélection finalement était pas mal. Déjà on a pu découvrir, en tout cas pour ma part, des trucs sympas.
Sam Severino,
je sais pas si vous connaissez Sam Severino.
Alors on n'a pas la télé, mais on connaît Sam Severino.
C'était que des artistes France Inter quasiment.
Voilà.
Mais justement, c'est ça qui était... Oui, parce que c'était diffusé en direct sur France Inter. France Inter était partenaire.
C'est normal, c'est la première fois, il y avait tous leurs artistes.
Ils aident des artistes, donc Sam Severino, il y avait Carla Bruni, il y avait...
Oui, mais par exemple, Carla Bruni a un succès médiatique. Enfin, elle est là, elle est première du top 50 depuis un mois.
Oui, mais c'est France Inter
mais
qui a lancé l'affaire.
Par contre, Sam Severino, on ne connaît pas. Et c'était quand même vachement agréable, justement, de nous faire découvrir sur la scène. Il a chanté en direct des textes vachement sympas, une interprétation super. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Il y avait effectivement Gohan Project, qui n'est pas forcément diffusé partout non plus. On ne connaît pas. Et ils ont d'ailleurs gagné une victoire pour la musique électronique,
Claire, oui.
Alors qu'il y avait David Guetta en face, qu'on connaît plus. En tout cas, si, bon, par la radio au moins.
Ne me regarde pas, moi, c'est David Tonvert.
Et donc, bon, Gwen Project, c'est du tango mixé comme Saint-Germain peut le faire avec du jazz.
Enfin, c'est moins donc connu c'est que sans Pellegrino, c'est sûr.
Voilà.
On en voit moins souvent.
Tikenja Fakoli, c'est l'Africain là, avec un accent très marqué, mec de Côte d'Ivoire, qui fait un reggae bien lourd, c'était pas mal du tout.
Il était présent, il y avait une raison politique ou
Oui, bah alors justement, enfin, je t'en parlerai après. Et à côté de ça, à côté de ce genre de jeunes talents que tout le monde ne connaît pas, il y avait aussi bah, les grosses pointures, mais qui curieusement, par exemple, c'est le cas pour Alaba Shung, pour son dernier album, pour Rita Mitsuko et leur dernier album, on n'est pas inondé de ces albums-là ces derniers temps sur la radio, dans les supermarchés,
Albums difficiles.
Mais justement, ils étaient représentés.
Ce sont des albums difficiles quand même.
Parce que donc le dernier album de Bashung, c'est plus parlé avec un fond de musique symphonique, mais un petit peu électro aussi. C'était sympa à découvrir. Ou Vincent Delerme, bon, qui fait des chansons à texte, c'est pas forcément très abordable.
Album France Inter.
Et en plus, j'ai trouvé que pour une fois, cette année, les récompenses étaient assez bien réparties. Parce qu'en général, les gens sont nominés au moins 4 fois. Et puis, t'en as un qui a tout. Et puis l'autre, il est nommé 5 fois, il a rien. Là, je trouvais que avec les gens comme Christophe, Bashung, bon, Renaud, il a tout raflé. Mais à force d'être nominé au moins 3 fois, ils ont réussi à en avoir une. Et harmonieusement répartie, j'ai trouvé. Et puis alors, il y a un petit moment que j'ai bien aimé dans la soirée quand même. Curieusement d'ailleurs. C'est la venue de Serge Adjani qui a reçu donc une victoire d'honneur. Alors moi je suis pas particulièrement fan, je connais pas du tout.
J'adore.
Mais justement j'ai trouvé le moment vachement joli. Je trouve qu'il a quand même un accent. Il marche le micro. Et donc.
Oui, il marche. Oui.
Non, parce qu'il est un petit peu vieux maintenant. Il était cramponné au bras de Carla Bruni. Il pouvait parler italien tous les deux.
Cramponné au bras de Carla Bruni.
Oui, c'est pas désagréable.
Mais, quand tu vois Carla Bruni, tu sais, t'as beau être une nana, tu t'accrocherais bien ses bras.
Non.
On apprend des choses.
Et donc.
Alors, dessus, ça va se casser la gueule, ouais.
Non, moi j'ai été déçue par sa voix. La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, une fille belle comme ça, elle a une voix vraiment
pas
terrible.
Et encore, elle a fait des progrès parce qu'il y a, je sais pas, 5-6 ans, quand elle avait chanté avec les Enfoirés, mais c'était épouvantable. Je sais pas, ou alors elle était malade ce jour-là, mais elle avait fait un massacre. Enfin bref, je voulais revenir sur Serge Adjani. Ils lui ont passé un extrait où il chante, comment ça s'appelle, Votre fille a 20 ans, la chanson de Georges Moustaki. Donc ils l'ont passé à l'écran, sur l'écran géant, Reggiani jeune qui la chante. Et puis finalement, il s'est mis à chanter en duo avec lui-même. Et finalement, c'était ouais, un beau moment. Donc je suis pas fan, j'ai trouvé ça charmant, émouvant, évidemment, standing ovation. Ils ont plus tes vues. Les autres se lèvent.
Mais il est vachement bien, Reggiani. Mais il s'est recollé les dents ou pas? Parce qu'il y a quelques années, il avait un dentier qui se barrait. Il avait fait un retour. Il avait le dentier qui s'en allait vers le micro.
Il s'est pas raccroché les baloches qu'il a sous les yeux. Non.
Le dentier, c'est pas mal.
C'était un dentier avec des petits pieds, puis on le remontait les valoches. Sur le côté.
Un truc comme ça, donc il a dû trouver une colle bien.
Les valoches sous les yeux. Les baloches, c'est pas sous les yeux.
Oh, pardon.
Enfin, ça dépend. C'est pas les siennes. Reprenons.
Bah par contre, là où j'étais un petit peu déçue, c'est quand même sur 4 heures de direct, je m'attendais à voir, je sais pas, un petit gag, des petits imprévus, hein, c'est la joie du direct.
Pas, Jamel Debbouze ?
Ah bah non, rien du tout. Alors on a eu l'intervention, mais programmée, hein, d'un intermittent du spectacle, en fait, comme tous les ans, qui venait défendre son bout de gras, surtout contre...
Michel Leeb ?
Surtout contre Antoine Célière. Et là, j'étais complètement d'accord avec lui, forcément. Et par contre, évidemment, vu le contexte, tous les artistes nous ont fait un petit mot. La guerre, c'est pas bien, il faut pas y aller. Merci. Heureusement qu'ils étaient là pour nous le rappeler.
Ah, il y a Sean Connery qui est allé à Bagdad récemment. Moi, j'ai bien aimé ça. Il est allé à Bagdad et il s'est fait interviewer par la télé et tout. Et il a dit, il était dans sa voiture et tout, il a dit, je viens voir les gens qu'on va assassiner en mon nom, soi-disant. Après, j'ai trouvé ça vraiment assez courageux, en fait. J'ai bien aimé.
Il dit que c'était Sean Penn, mais bon, c'est pas grave.
Ah oui, t'as raison, c'était Sean Penn, c'était
Sean
l'ex.
Connery, par contre, il va se marier avec Aretha Franklin.
Ah non, c'est l'ex de Madonna, c'est Sean Penn.
Ouais, mais c'était une connerie, quoi.
Elle s'appellera Aretha Connery, comme c'est Aretha Franklin et Sean Connery.
D'accord.
Je vois pas le rapport avec les victoires de la musique.
Il n'y en a pas.
Donc pour finir, si vous voulez, je peux vous donner quelques...
Nous dis pas, si on veut, on va te dire non. Vas-y, fais-le.
Vas-y, essaye.
Donc je l'ai dit, le spectacle musical, bon, c'était Christophe. Le vidéoclip de l'année, c'était Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman, qui n'était pas là d'ailleurs. Groupe artiste révélation de l'année, donc c'était la seule victoire qui était votée par le public. Ça faisait 3 semaines qu'ils nous bassinaient avec des bandes annonces sur la 2. Donc il y avait Benabar, Calogero, Vincent Delerme et Natacha Saint-Pierre. Et évidemment, c'est Natacha Saint-Pierre qui a gagné. Cela dit, chante très bien, chanter en direct, là c'était très joli. La révélation scène de l'année, c'était par contre Vincent Delerme.
Non, mais tu voudrais pas nous chanter ce que fait Natacha Saint-Pierre?
On n'a pas loin à cause de la SACEM.
C'est pas grave. En fait, des fois, ça a du bon.
Juste une idée, un titre.
C'est une question.
Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Un amour à demi-mot.
C'est bon, hein, tu peux arrêter.
Une maladresse.
Oh yes.
C'est,
je vois.
Mais c'est pas Natacha Saint-Pierre, ça?
C'est écrit par Pascal Obispo.
C'est bon, on connaît pas, on demande, c'est tout.
Et il chante avec elle aussi. Sur cette chanson.
Oui. Et d'ailleurs, là, il n'était pas là. Mais pour une fois, il était pas nominé. Comme ça, bah, là, il était sûr de ne pas gagner. Le pauvre. Donc, ça, l'album électronique, j'ai dit. C'était donc Gohan Project. L'album rap hip-hop de l'année. Bah, c'était le seul qu'on connaissait. Enfin, moi, pour ma part, c'était Doc Gynéco. Qui, effectivement, ça a pris un certain temps aussi, le temps qu'il monte sur la scène.
Même s'il arrive à dire, ça prend du temps.
Non, il avait écrit un petit truc, c'était, il écrit assez bien.
On l'a vu monter, il est monté super rapide. Hein.
Il a fait une cascade.
Pour lui. Voilà. Hein.
C'était ma soirée, enfin ma journée, victoire de la musique.
Eh bien, Béatrice, merci beaucoup. C'était très bien, on peut l'applaudir aussi. Ils sont mous ce soir.
On ne sait pas.
Si, ils sont mous ce soir.
C'est parce que maintenant qu'on est autorisé à avoir des verres, on a les mains prises.
Non, mais si vous applaudissez pas, on vous applaudira pas non plus. Donc ceux qui sont déjà passés, ils s'en foutent.
N'empêche que avoir entendu cette description des victoires de la musique, ça avait l'air moins chiant que d'autres années quand même. Enfin, de ce que j'en connais, ça avait l'air pénible avant.
C'était long. Mais moi, j'ai trouvé que le point de vue musique, c'était très varié entre les jeunes, les vieux. Les connus, les pas connus, les très distribués, les pas distribués. Je trouvais qu'il y avait un mélange assez équitable. Et il y avait des trucs sympas.
Merci.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va te réapplaudir. Oh ouais. Ou te re-applaudir. Comment on dit? Est-ce qu'on a un agrégé de grammaire dans la maison là?
Oui, j'ai le dico en haut.
Désagrégé, mais...
Rapplaudir, je crois.
Rapplaudir. Ra.
Ouais, comme un rap.
Comme le dieu égyptien du soleil.
Non, quand tu fais des mots croisés, c'est bis.
Bah, tu peux applaudir une deuxième fois, c'est plus simple. Au moins, tu dis pas un mot qui
existe. Ah, bah ouais, on va applaudir une troisième fois alors.
Alors, quand tu fais des mots croisés, c'est terre.
D'accord, bah maintenant c'est terre.
Et 4,
tu vas te taire.
C'est quoi un mot croisé, 4?
Quoi terre?
Non, water.
Quaterback, c'est pas un mot croisé ça. Oh là là. Donc maintenant, à Darty. Ça va être à toi, c'est bon.
Super.
Donc, super. Super Darty.
De Linette.
Hein, il n'est pas que.
Super de Linette.
Ouais. Ouais, support. Super. Il n'est pas. D'ailleurs, super. Il est super Darty ou super autre chose, mais nous ne dévoilerons pas sa vie privée ici.
Ce serait pas sympa.
Donc, tu vas nous parler du logiciel.
Libre, ouais.
Voilà, et ben vas-y. Donc on va y aller.
Ouais, donc en fait, le logiciel libre, c'est même pas vraiment une invention en fait, parce que, enfin, au départ, les logiciels, l'informatique, c'est une activité qui, quelque part, date d'assez longtemps en fait. On peut considérer que ça existe depuis quasiment 50 ans en fait. Et en fait, bah, l'anecdote veut que le logiciel libre soit né à partir d'un problème d'imprimante en fait. Un mec qui utilisait une imprimante et qui avait un logiciel qui chargeait de gérer les impressions sur l'imprimante, et puis bah, il y avait un problème dans le logiciel, un bug, comme tout le monde sait, bah, le bug, voilà. Et donc ça marchait pas, ils avaient corrigé le truc, et puis ça marchait quand même. Puis un jour, ils ont mis à jour leur imprimante, ils ont racheté une nouvelle imprimante, tout. Et puis ce coup-ci, bah, le logiciel qui allait avec l'imprimante, en fait, avait toujours le même bug, en fait, il marchait toujours pas. Mais par contre, là, ils ont pas pu le modifier, en fait. Et quand ils ont voulu le modifier, ils ont été emmerdés, parce qu'ils avaient pas les... Ils n'avaient pas les moyens de les modifier, ils n'avaient pas les sources du programme, ils ne pouvaient pas faire. Ils ont demandé au mec, au fournisseur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les trucs là? Puis le mec leur a dit non, vous ne pouvez pas. Comment ça, on ne peut pas? Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de modifier le logiciel. Et donc en fait, c'est des gens, en particulier un mec qui s'appelle Richard Stallman, quoi, qui ont décidé de, de se dire non, ça c'est pas acceptable en fait, qu'on puisse pas modifier le logiciel, s'en servir comme on veut, et qui ont décidé de monter le mouvement du logiciel libre. Alors en fait, il y a une analogie que j'aime bien en fait, qui est pas de moi du tout. Vas-y, ton verre, tu
lui. Non, mais j'ai demandé des exemples.
Voilà, une analogie que j'aime bien, qui est celle de la cuisine, donc elle est pas de moi, elle est de Stallman pour le coup. Qui est de dire, par exemple, imaginez un monde où aujourd'hui, en fait, quand vous bouffez un truc au restaurant, alors en fait, je vais arrêter tout de suite l'analogie avec la cuisine, je vais prendre plutôt une analogie avec des cocktails. Parce que
ouais, ça vaut mieux parce ici, que la cuisine, c'est pas pour le temps que tu passes.
C'est pas les cuisines, par contre, les cocktails, ils connaissent bien. Donc, on va prendre, il y a un cocktail, vous buvez un truc dans un bar, vous imaginez, tac, paf, il dit, ah tiens, c'est vachement bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah alors, soit le patron vous le dit, soit éventuellement, bah, vous arrivez à savoir, oui, tiens, ça a l'air vachement bon, c'est du pastis cola. Un bon mazout.
On dit c'est vachement bon.
Bah imaginons, tu vois, enfin t'es un mec dans un bar, tu bois un truc,
voilà, tu dis,
bon,
ah,
ça a l'air vachement bon. Voilà. Donc tu dis bah voilà, c'est super bon et tout, et tu dis bon. Alors tu dis à tes copains, tiens, regardez, j'ai une recette machin, puis éventuellement tu vas la faire chez toi, tu vas la donner à un autre patron de bar. Bah imagine un monde où en fait si tu fais ça, on te traite de pirate, on dit que c'est interdit et on t'envoie en tôle. Bah concrètement, ce monde-là existe aujourd'hui, c'est le monde du logiciel en fait. C'est-à-dire que grosso modo, t'as un logiciel, t'as un programme qui fait quelque chose, t'as pas le droit de, enfin, dans le cas des logiciels propriétaires, en fait, t'as pas le droit de savoir comment il marche, t'as pas le droit de chercher à savoir comment il marche, t'as pas le droit de le donner à tes amis, t'as pas le droit
Tu l'as acheté quand même,
Ben, de même que t'as acheté le cocktail, hein. T'as acheté le cocktail, ouais. T'as bu ton cocktail, t'as le droit de savoir comment il est fait et t'as le droit de donner la recette à un autre mec. Et le logiciel, ça pourrait être pareil. Sauf que c'est pas pareil, en fait. Sauf que dans le cas du logiciel, la plupart du temps, avec le logiciel propriétaire, t'achètes ton logiciel, t'as le droit de t'en servir, point. Mais si jamais tu le donnes à un autre mec, t'es passé une rue.
J'ai pas trop compris ce qui se passait quand t'achetais un logiciel avec des recettes de cocktails dedans, là. Un petit CD comme ça.
Bon, alors ça, c'est un métalogiciel, en fait, qui t'explique comment faire des cocktails, ouais. Bon, ça, c'est un cas particulier, on va dire que... On en parlera plus tard dans le cadre d'une deuxième émission, merci. Bon. Alors, voilà.
ça veut dire ta gueule, je
crois. Ouais, en déconner, ouais, ça veut dire ça, ouais. C'est une bonne recette pour dire ta gueule. Vous avez le droit de la copier si vous voulez.
Là, c'est parce que c'est pas du logiciel propriétaire que j'ai le droit de décoder, c'est ça? C'est,
ouais,
c'est
ça une bonne recette. Ouais, voilà,
j'aimerais
exactement
qu'on arrête de dire des grossièretés quand même sur cette radio qui, jusqu'à maintenant, avait su rester correcte.
D'accord, tais-toi.
Voilà. C'est bien comme ça? Ok, bon, c'est reformulé, mais c'est bien reformulé. Bon, alors, donc le logiciel libre, en fait, c'est un problème purement philosophique, en fait. Donc, en fait, se base sur quatre libertés que je vais vous dire, en fait. Bon, je vais les lire bêtement parce que je les connais pas par cœur, hein, encore défendant. Donc, liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Grande différence avec le logiciel propriétaire. Typiquement, vous pouvez voir un truc qui est genre pour les étudiants ou pour truc, où vous n'avez pas le droit de fabriquer une bombe atomique avec, ou vous avez pas le droit de... Un logiciel libre, t'as le droit de faire ce que tu veux avec. Tu peux faire un programme d'extermination, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des films porno, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire un truc pour n'importe quoi, t'as le droit de faire le faire.
T'as un logiciel libre de comptable, vas-y pour faire un film porno avec.
Non, mais, ouais, mais tu peux l'utiliser pour faire de la compta d'un site de cul, par exemple, t'as complètement le droit. Bon. Ensuite, t'as la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à tes besoins, en fait. C'est-à-dire que t'as le droit de savoir comment il marche. Donc, bah, typiquement, le cocktail, t'as le droit d'essayer de savoir ce qu'il y a dans le cocktail et tout. Et puis, éventuellement, de l'améliorer, par exemple. Pastis cola, tu peux te dire, un petit peu de picon là-dedans, ça doit être pas mal, quoi. Par exemple.
Ah ouais!
Admettons, tu vois. Bon, mais c'est un exemple, c'est un cas d'école que j'ai pris.
Ouais, mais tout le monde comprend comme ça.
La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, par exemple, tu vois, t'as le droit de faire d'autres cocktails pareils, les filles à tous tes potes dans le bar et tout, ils vont être hyper contents, quoi, ce truc. Mais t'es pas un pirate, quoi, t'as le droit de le faire.
Surtout avec le picon.
Ouais, voilà, bon, enfin, ouais, bon. Et donc, la liberté d'améliorer le programme, alors ça, c'est sûr, c'est vachement bien, t'as le droit de l'améliorer, t'as le droit de le changer. Hein.
Tu peux remplacer le Coca-Cola par de l'eau, par exemple.
Voilà, tu peux remplacer le Coca par de l'eau et le picon, le virer, et puis remplacer par de la menthe ou de la grenadine, un truc un peu meilleur.
Tu peux remplacer le pastis par de la vodka et le picon par du caramel, voilà, ça fait une vodka caramel.
Voilà, par exemple, c'est vachement bien. Voilà, tu vois, donc t'as le droit de l'améliorer. Alors sinon, en fait, on pourrait dire, mais non, t'as pas le droit. Bon, et pour en faire profiter tout le monde, en fait. Donc, en fait, bah, je vais vous citer des exemples de licences propriétaires, en fait, de logiciels. Donc, là, vous voyez, le logiciel libre, vous avez le droit de faire tout ça.
Donc, en gros, c'est comme dit le Larousse, le logiciel libre, c'est un logiciel dont celui qui l'a construit, fabriqué, a abandonné tous les droits et ne peut plus rien faire.
Non, justement, en fait, il y a aucune, dans le logiciel libre, dans tout ce que je vous ai donné, il n'y a aucune notion de gratuité, ni d'abandon des droits, ni quoi que ce soit. En fait, c'est très précis, c'est de dire, vous avez le droit d'exécuter le programme, hein, dans tous les cas, d'étudier son fonctionnement, de le redistribuer, de le modifier, de l'adapter, tout ça, et de le redistribuer après. Mais c'est le reste, à la limite, il y a des propriétés qui en découlent. Il se trouve que la plupart des logiciels libres sont très peu chers ou gratuits, mais ça en découle, en fait. C'est pas du tout un prérequis.
Tu vois, Valérie, plutôt que de nous parler de Toto, tout ça, là.
Donc voilà. Donc, je...
Et attends, qu'est-ce que j'ai dit sur Toto? Je me souviens même pas. C'est quoi cette histoire?
Non, c'est préventif. C'est à la mode en ce moment de faire du préventif.
Ah, d'accord. Mais non, en fait, il est pas
sujet
encore.
De tes histoires drôles.
Oui, mais comme dirait
l'autre. Elles sont très bien, tes histoires drôles. Hein, loin de moi l'idée de. Mais... Bon, on va laisser parler.
Donc, le logiciel propriétaire qui supprime toutes ces libertés-là, c'est-à-dire que tout ça, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est le logiciel que vous connaissez, que la plupart des gens connaissent, c'est celui qu'on achète en général dans les petites boîtes à la FNAC où il y a marqué tout droit de reproduction interdit, machin, etc. Lui, par contre, il vous enferme dans un bon vieux carcan. Typiquement, là, je vous ai sorti des extraits de la licence de Windows 2000, par exemple, logiciel propriétaire, s'il en est. En outre, je cite le passage, en outre, aucune garantie de propriété, de jouissance paisible, d'absence de troubles de possession, de conformité à la description ou l'absence de contrefaçon n'est donnée en ce qui concerne le produit. C'est-à-dire que grosso modo, vous n'avez pas de garantie de conformité à la description. C'est-à-dire, vous achetez un truc, vous n'êtes même pas sûr que ça correspond à ce qui est marqué sur la boîte. C'est quand même pas mal.
Non contractuel, ce qu'on voit dans les catalogues, ouais. Genre la redoute,
ouais, voilà, tout à fait, exactement. En fait, ce que ça veut dire derrière, par exemple, pour une
si tu voulais acheter la nana,
pour une entreprise qui achète par exemple des copies de Windows 2000, c'est assez grave. C'est-à-dire que vous achetez deux versions de Windows 2000, c'est marqué la même chose sur la boîte, ça veut dire que c'est pas forcément la même chose qu'il y a dedans. C'est relativement impensable en fait. Bon, tout le monde continue à l'acheter. Enfin bref. Donc voilà, hein, bon, bref, hein, bon. Hein. Donc, quand même.
Ah, cette
quand même.
Transition!
T'as vu ça un petit peu? Ça cartonne. Donc, bon, en fait, bon, voilà, donc, la différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire, en fait, c'est une question de priorité. En fait, le logiciel propriétaire réduit les libertés au nom d'un profit potentiel, en fait, pécunier. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont identifié qu'en fait, on pouvait faire de l'argent avec le logiciel. Donc, ils se sont dit, mais d'un côté, si on garde comme c'est en ce moment, on pourra rien faire. Donc, ils ont inventé l'interdiction de copier un logiciel, ils ont inventé le terme de pirate informatique pour le mec qui ne respecte pas cette loi-là, qui était complètement inventée de toute pièce, en fait, parce qu'elle n'existait absolument pas avant l'existence du logiciel propriétaire. Et donc, en fait, c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est pour ça que, j'essaye de rentrer dans le thème de l'émission, c'est un peu laborieux, tant pis, hein, mais c'est pour ça que moi je les vois comme des parasites. En fait, c'est des mecs qui...
Répète le mot.
Parasites. C'est des gens qui prétendent être indispensables, en fait, parce que si tu leur dis que les logiciels devraient tous être libres, ils vont dire ouais, mais attention, on pourra plus gagner l'argent en développant des logiciels, et puis attention, il y aura plus personne qui voudra développer du logiciel, etc., et ça va mourir, etc., et les gens seront bien emmerdés puisqu'il n'y en aura plus. D'un autre côté, on veut des preuves de ça, en fait. C'est-à-dire que avant qu'ils soient là, ces gens-là, il y avait déjà des logiciels, et le logiciel libre aujourd'hui, le mouvement tel qu'on le connaît, en fait, existe depuis 20 ans à peu près, et quand même la preuve qu'il n'y a pas besoin de financement par la vente de petites galettes CD pour faire du logiciel, à savoir, typiquement, quoique la radio qui fait ce qu'elle peut utilise quasiment que, pas quasiment, enfin, à ma connaissance, on n'utilise que du logiciel libre. Il y a peut-être un logiciel propriétaire caché quelque part, mais grosso modo, entre le logiciel utilisé pour numériser les cassettes qu'on enregistre, le truc pour coder les fichiers OGG, le site web, tout est sur plateforme libre, etc.
Enfin, je tiens à préciser un truc, c'est que donc Darty dit à ma connaissance, on n'utilise que du logiciel libre, et en fait c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est informatique pour la radio.
Non, mais par exemple, je sais pas si si notre hébergeur a pas des logiciels propriétaires par endroit, en fait. J'ai pas de truc là-dessus. Bon,
il faudra lui demander.
Normalement non, en fait, il est.
Ah, lui casser la gueule.
Voilà. Donc pour revenir à une analogie, tu vois, typiquement le logiciel propriétaire, c'est un petit peu quelqu'un qui déciderait aujourd'hui de. Mais on pourrait imaginer, enfin, je vais pas faire une comparaison directe, mais quelqu'un aujourd'hui pourrait identifier un business model, tant qu'on est à parler d'informatique et d'internet, etc., qui dit je vais polluer l'air exprès, comme ça je pourrais vendre de l'air pur, impeccable. C'est un business model en béton. Tu pollues l'air, tu le conchis, et puis après, impeccable, les gens ont besoin d'air propre, donc tu leur vends de l'air propre. C'est un super moyen de faire de l'argent, en fait. Mais on va pas le faire parce que
t'es en train de nous dire qu'ils essayent de provoquer des besoins.
Voilà. Alors en fait, voilà, c'est pour moi,
si des médecins inventaient un virus pour pouvoir nous vendre les médicaments.
Pour moi, les logiciels propriétaires sont vraiment une verrue économique qui refuse de respecter la loi du marché, en fait, l'espèce de sacro-sainte loi du marché. On se demande bien qui c'est qui l'a voté, mais bon. Bref. Par exemple, je vais vous donner un exemple. DECSS, c'est un programme qui permet de lire les DVD, en fait. Vous achetez un DVD, vous vous dites, j'ai le droit de le regarder. En fait, non. Il y a un Norvégien de 16 ans, en fait, c'était en 2000, qui s'est cassé les dents sur le problème. Il a essayé de lire un DVD, mais vraiment de lire le DVD. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis le DVD dans un lecteur de DVD, il a voulu savoir ce qu'il y avait d'inscrit sur le DVD. Et les DVD sont cryptés, en fait. Alors, en fait, à la base, justement, pour le genre de raison que j'étais en train de mettre en évidence, à savoir... gagner de l'argent en fait. Donc en fait la problématique là c'est le zonage, c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs telle zone, telle zone, telle zone, telle zone. Donc pour que les lecteurs d'une zone A puissent pas lire le truc d'une zone C ou etc, il faut que le contenu soit crypté. T'as des lecteurs qui permettent de décrypter tel truc ou tel truc ou tel machin. Évidemment le fonctionnement de ces lecteurs est inconnu du grand public, on vous le donne pas. Donc lui il a voulu lire son DVD sous Linux. Pour lire son DVD sous Linux il fallait qu'il fasse un programme et qu'il comprenne le fonctionnement du truc. Donc il l'a fait. Et il a eu un procès au cul, donc c'était un mec de 16 ans, vous voyez, vous imaginez, un mec qui a fait ça. Ouais. Et il a eu un procès de la Motion Picture Association of America, la MPAA, donc genre l'association de, je sais pas, Universal, tout, machin, etc., tous ces mecs-là, Warner, etc.
Les gens
etc.
qui gagnent un maximum de pognon avec ces trucs.
Contre un Norvégien de 16 ans, tu vois le truc, sympa, bon.
Attends, et c'est dangereux des Norvégiens de 16 ans. Hein. Moi voilà. J'ai connu des Norvégiennes de 18 ans.
Donc, donc il a été défendu quand même par l'Electronic Frontier Foundation, l'EFF, qui est bon. Il a quand même trouvé des gens pour l'aider un petit peu dans ce truc-là. Donc. Il y a en janvier 2003, là très récemment, il a été acquitté. Évidemment, la MPA a fait appel, donc il est reparti en jugement, etc. Donc ça, c'est le premier appel. Il peut y avoir éventuellement un deuxième appel en col, même si le jugement de nouveau est. Et grosso modo, son seul crime, c'est d'avoir réussi à lire un DVD, c'est-à-dire qu'il n'a pas diffusé de DVD pirate, il a seulement lu.
Et d'ailleurs, son programme permet ou pas de copier des DVD parce
non,
qu'en fait
tout.
C'est un peu ça la
pas
question.
Pas du tout, parce que pour copier un DVD, t'as pas besoin de comprendre ce qu'il y a dessus. Tu peux le copier en fait sans réfléchir. Tu peux faire une copie conforme du DVD. Tu sais toujours pas ce qu'il y a dedans, mais tu peux très bien comprendre le copier. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compris ce qu'il y avait dedans. Et ça c'est interdit.
C'est un petit peu des comportements mafieux finalement.
Bah, c'est on se demande.
Je te file une mallette, t'as pas le droit de l'ouvrir, et si tu l'ouvres, ouais. Je te bute.
Voilà. Alors, donc il y a une loi qui est passée aux États-Unis qui s'appelle le DMCA, Digital Millennium Copyright Act en fait. Qui condamne justement le fait de chercher à comprendre comment marche qui dit en substance en fait s'il y a un moyen de protection informatique d'un système en fait il est interdit d'essayer de chercher à le contourner. Alors de là il est interdit de chercher à le comprendre comment il marche, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de chercher à trouver la solution, on n'a pas le droit d'essayer de comprendre comment ça marche, c'est interdit, c'est illégal. Même si vous ne contournez pas le système, le fait même d'essayer de comprendre comment ça marche, c'est illégal.
Tu te croirais dans la Bible en fait, pas le droit de croquer dans la
voilà pomme. Alors en fait ça c'est le DMCA aux États-Unis, donc à la limite, il y a deux ans, moi, avec les copains, j'en rigolais bien. Je disais, les Américains, ils sont très cons. Je dis toujours que les Américains sont très
oui,
cons.
Mais.
Et maintenant, je dis aussi que les Européens sont très cons parce qu'il y a eu la même directive qui a été pondue par l'Europe, qui s'appelle UCD, European Union.
Elle n'est pas votée encore. C'est en
alors, étude. Si, ça a été voté au niveau de l'Europe, en fait, c'est adopté. Et maintenant, à charge de chaque pays d'appliquer cette directive dans sa législation.
Moi, ça...
C'est typique des trucs européens, en fait. T'as un truc qui est voté au niveau européen, donc tu sais pas trop comment c'est voté. Et après, chaque pays l'applique en disant, ah, de toute façon, c'est l'Europe, on n'a pas le choix.
Ça me fait penser aussi à l'histoire du mec qui a trouvé comment était crypté les cartes bleues et qui quand il l'a dit aux banques en fait s'est retrouvé en prison au lieu de qu'on se dise il faut améliorer le système de cryptage.
Ouais, voilà, tout à fait. Alors un autre exemple, donc parlant du DMCA, c'est un mec qui s'appelle Dimitri Skliarov, qui est russe, donc au nom
un joueur d'échecs.
Non, c'est un mec bon, 26 ans, lui un petit peu plus vieux que l'autre.
D'échecs quand même.
Il est allé lui au DEFCON à Las Vegas en 2001, l'été 2001. Un truc bon, bah, où les gens se réunissent, ils parlent d'informatique, c'est un salon, tout. Et il s'est fait choper par le FBI à la sortie de son hôtel. Parce qu'en fait, il avait, lui, alors, son crime, lui, c'était d'avoir réussi à lire un livre, en fait, un e-book, un livre électronique. Donc, pareil, c'est un petit peu le même topo que pour le DVD.
Moi, j'aime bien quand tu dis crime, ça paraît toujours quand même assez disproportionné.
Oui,
moi,
mais ça s'appelle des crimes. Ça s'appelle des crimes. C'est le grand problème. Il y a toute une dérive. Toute une dérive en fait terminologique par rapport à tout ce qui est informatique, c'est des délits de manière évidente, c'est du délit, c'est du domaine du délit, mais on appelle ça crime. On parle de pirates, les pirates c'est quand même des barbares, les mecs. Hein. Si tu vas sur le site, j'essaierai de mettre l'URL sur Quake, si tu vas sur le site de l'association MPA, enfin MPA et autres, et la RIA aussi. Tu vois leur site, ils disent les pirates avant c'était des mecs avec des sabres, des tout, des machins et des trucs, hein. Et maintenant ils ont changé de visage, ils sont jeunes, ils téléchargent des MP3. Mais vraiment l'analogie est faite direct, l'amalgame est fait direct, sans aucune précaution que dalle. C'est vraiment. Et donc en fait il a été suite au 11 septembre, il y a les super lois qui sont passées aux États-Unis. T'as le droit d'emprisonner n'importe qui pour n'importe quelle durée sans aucun motif. Donc il a été gardé en taule, il a dû plaider coupable pour pouvoir rentrer dans son pays en fait. Donc voilà, bon, bref.
Mais c'est le pays des libertés.
Voilà, ouais. Et donc il y a aussi d'autres trucs dont je vais vous parler très rapidement, c'est DRM et TCPA. DRM c'est Digital Rights Management, c'est-à-dire que c'est la maîtrise du contenu, des contenus type de la musique ou des films, etc. C'est-à-dire que typiquement avoir des L'idée, c'est d'avoir des fichiers, par exemple, qui ne seront lisibles que pendant une certaine durée. C'est-à-dire que vous avez un fichier, il est lisible que telle durée, etc. TCPA, c'est un truc... Bon, je ne vais pas vous parler de TCPA parce que ça a l'air assez pressé. Je vous en parlerai éventuellement plus longuement après. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez un petit peu compris l'esprit du logiciel libre. En fait, c'est pas du tout... bon, c'est un petit peu touffu, j'ai parlé de plein de choses. L'idée du logiciel libre, c'est pas du logiciel gratuit. C'est surtout l'amalgame qu'il ne faut pas faire. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui préserve les libertés en fait fondamentales. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire de l'argent avec, c'est pas le problème. Simplement, il faut pas que le gain d'argent arrive devant toute cette préservation des libertés. Et pour vraiment, vraiment, vraiment conclure, je vais vous dire quand même que moi, depuis le début de mes chroniques, en fait, je suis en train de regarder la pauvre vie de l'informaticien. Je me dis, le pauvre type. Bon, déjà, il a un clavier mal gaulé avec une souris à la con. Il va attraper un syndrome du canal carpien. Ensuite, bon. Il risque l'arrêt cardiaque et l'overdose de cholestérol parce qu'il mange des pizzas froides brûlées à longueur de journée et qu'il boit du café. Et en plus, il risque d'aller en prison parce qu'il a lu un livre ou regardé un DVD.
Ouais, fallait pas faire ça.
Ouais, franchement, je me demande si j'ai bien choisi ma vocation, quoi.
C'est un métier à risque.
Mais moi, je t'aime.
Bah écoute, nous aussi. Et d'ailleurs, nous allons l'applaudir. Merci, merci, merci beaucoup. Merci et encore merci, Darty. Et nous allons...
Tu dis ça parce que je viens de m'arrêter ?
Une deuxième fois.
Si on le rapplaudissait plutôt ?
Rapplaudissons-le.
Moi j'ai remarqué, on applaudit quand jamais arrête de parler, donc la prochaine fois je parlerai pas du tout, je ferai que m'arrêter et puis ça suffira.
On va t'applaudir pendant 10 minutes, oui, bien sûr. Donc maintenant nous allons passer à Valérie. Valérie, enfin il reste deux personnes encore, et ces deux personnes se sont un peu tenues. Enfin, se sont plus tenus au thème, c'est-à-dire les parasites. C'est dans le titre de leur chronique. Hein. Valérie va nous faire un truc sur les parasites interdits au Canada. Donc, parasites, il y a parasites interdits au Canada, hein, c'est clair. Et Numa, il va nous parler des blattes, des machins, des trucs qui bouffent les livres, donc des parasites. C'est bien, bravo.
De rien. Ouais,
j'espère que ça va être intéressant, c'est bon.
Bah non.
Hein, des fois, il y a des thèmes à la con, hein, ça arrive. Hein.
Alors moi je te préviens tout de suite, mon thème il est pas très intéressant, en fait je voulais vous parler de sexe au départ, mais comme il fallait rester dans les parasites et que je m'y connais pas trop en morpion, j'ai choisi un thème canadien quoi. Mais franchement, attendez la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ils ont pas de morpion au Canada ?
Le Canada n'est pas le morpion de l'Amérique du Nord ?
Oui, non mais moi je voulais pas faire de métaphore, je voulais vraiment rester dans le sujet, dans le parasite, vraiment parasite. Et pour ce qui est des morpions, je m'y connais moins que ton verre, je pense. Ouais,
j'ai une petite définition là que j'ai chopée sur internet.
C'est sympa pour ses ex. Hein.
Hachette, voilà sur voilà.fr, club internet, il y a une encyclopédie Hachette qui est en ligne,
mais j'ai pas l'argent.
Qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire c'est gratuit. Voilà.
Mais t'as dit Hachette.
Oui, mais c'est vrai. Pas l'Hachette.
Bah voilà, c'est tout l'ambiguïté c'est de la chose. Mots. Non, c'est ambigu. Alors donc, je vais vous donner la petite définition qui est pas mal, mais bon, c'est Hachette. Hein. Alors, un parasite est un végétal ou un animal qui vit aux dépens d'un autre être vivant, son hôte, sans que ce dernier en tire le moindre bénéfice.
En tire.
Oui. Ah ouais, c'est bien, vous suivez. Tout de suite quand on parle de... Enfin bref. Cette association lui est même néfaste dans la plupart des cas. Toutefois, à la différence d'un prédateur, le parasite n'a aucun avantage à tuer son hôte, car il pourrait disparaître avec lui. Cette définition englobe la plupart des agents infectieux, virus, bactéries, champignons... Hein. Mais dans le langage courant, le terme ne désigne que les tiques et les puces. Alors, ectoparasite, pour ceux qui comprennent.
Comme ectolitre, mais en parasite.
Voilà. Non, il n'y a pas de H. Ainsi que les vers ronds et plats. Endoparasites.
Ceux dans lesquels on peut pas boire.
Donc alors je reprécise la fin parce que c'est important. Donc les tiques et les puces, c'est les ectoparasites.
Les vers ronds et plats,
c'est les endoparasites. Donc nous ici, on a que des vers ronds et creux.
Je pense que je vais commencer ma chronique là maintenant et je vais essayer de la commencer par une histoire drôle que ton verre m'a interdit de raconter des histoires drôles.
Je t'ai pas interdit de raconter des histoires.
En parlant des parasites,
ne me fais pas passer pour un.
C'était un consensus collectif.
En parlant des parasites, ça me fait penser à l'histoire de ce scorpion qui voulait traverser une rivière et qui a demandé à une grenouille : Est-ce que je peux monter sur ton dos ?
Elle est longue en plus.
Et la grenouille a dit : Bah attends, je suis pas bête, si tu montes sur mon dos, au milieu de la rivière, tu me piqueras et je mourrai. Et le scorpion dit, bah attends, sois pas débile quoi, enfin, si je te pique, tu meurs, moi je sais pas nager, je meurs aussi avec toi. Alors elle dit, ah bah c'est vrai, c'est pas con, bah tiens, monte sur mon dos. Et il nage et tout, et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille dit, mais t'es fou, mais tu vas mourir avec moi. Oui, mais j'ai pas pu résister, c'est ma nature.
Donc le scorpion n'est pas un parasite.
Bah si, parce qu'il a piqué alors que ça lui apportait rien.
C'est un prédateur.
Non, c'est un
prédateur. Ça lui apportait rien.
Non, là, oui, mais il a disparu.
C'est un gros con surtout. Ouais.
Il a disparu avec.
Et bah le parasite aussi disparaît avec.
Mais justement, il cherche pas.
Il tue pas son hôte. T'as pas écouté ce que j'ai dit.
Il a pas cherché à le tuer.
Donc alors je suis désolé, mais je vais être obligé de recommencer.
Ouais, t'as fait un truc sur le thème et en plus t'as rien compris au thème.
Non mais ça tombe bien, j'ai une chronique super courte, alors j'essaye de faire parler un petit peu les gens.
Bah, si tu l'as commencé ta chronique.
C'est pour meubler.
Bon, je vais la commencer alors. Alors en fait, je me suis rendu compte que je vous aurais bien parlé du lierre et des termites, parce que comme là en ce moment je m'intéresse vachement à l'immobilier, je suis assez calé sur le sujet. Mais bon, j'ai choisi un sujet sur lequel je suis absolument pas calé plutôt. Ça durera moins longtemps, ça vous embêtera moins. Il s'agit des parasites qui sont réglementés par le Canada. Si vous arrivez au Canada là, avec vos valises de parasites, vous pouvez pas passer. Il y a 241 parasites des plantes qui sont interdits, plus les parasites des animaux, mais ça m'embêtait de trop me renseigner parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre.
Tu veux dire que si j'arrive avec deux sacs pleins de termites comme ça à la douane, je peux passer ?
Bah non, t'as pas le droit, non. Et alors, il y a plein de types d'organismes différents qui sont interdits. Il y a des mollusques, alors je raconte pas pour les femmes, je sais pas comment elles entrent. Il y a des insectes.
Tu veux parler de quel genre de mollusque? Là, c'est interdit, c'est pas un parasite, ça.
C'est un bivalve.
Non, ça dépend des mollusques, en fait. Il y a des insectes, des phytoplasmes, des champignons, des virus, des mites, parce qu'il y a plusieurs sortes de mites, hein, moi je savais pas. Il y a des gens qui ont des grosses mites, d'autres ont des plus petites mites. Il y a des plantes, il y a des bactéries, des nématodes. Et il y a même des organismes inconnus, mais on connaît leur nom, mais on sait pas ce que c'est, quoi. Sinon, il y en a.
Mode pour identifier.
Il y a des fois des gens, tu connais leur nom, mais tu les connais pas vraiment.
Oui, c'est vrai.
C'est pareil.
T'as raison. Par exemple, c'est vrai que ton
merci,
verre.
Merci, j'aime te l'entendre.
Ton verre, je sais toujours pas si c'est un homme ou une femme, par exemple.
Eh ben, écoute, on va couper 5 minutes. C'est juste pour une démonstration, c'est une démonstration. Ah, Darty fait les yeux ronds, là. Donc on va continuer.
Je sais pas, c'est 5 minutes, quoi, je médite.
Bah, édite-toi toi-même, hein, comme disait l'autre. Alors en fait, si j'ai choisi ce sujet aussi, c'est parce que j'ai trouvé que les noms en français de tous ces parasites étaient assez poétiques. Et donc j'ai choisi de vous en citer quelques-uns. Et puis, vous allez voir, je pense que vous allez apprécier comme moi. Il y a le ver du poirier, par exemple, à ne pas confondre avec la ver de poire. Avec le ver de poire, oui. Oh là là.
Un peu plus, on dirait l'éthique de film de Max Pécasse. Hein.
Oui, le puceron, la nigère de la pruche.
Oh,
Max Pécasse, il a tourné ça, non ?
Le quoi ?
Le puceron, la nigère de la pruche.
Un aristocrate.
C'est un beau titre de film.
Et il y en a un autre aussi. Imaginez, vous êtes en train d'éplucher votre pomme. Comme ça, vous épluchez une pomme à la douane, bêtement. Ben, faites attention, parce que la tordeuse de la pelure est interdite. Et oui. On n'y pense pas. Et le virus de la marbrure zonale du prunier américain, que je sais pas, à part si on vient des États-Unis, je sais pas d'où on ramène ça, mais bon. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui sont plus connus, qui sont interdits, comme par exemple, j'ai oublié le nom, et puis comme dans ma liste, elle est pas dans l'ordre dans lequel je veux vous dire. Ah voilà, c'est à la fin. Le phylloxéra, c'est interdit au Canada, parce que on a eu ça en Europe. Ben, finalement, on était bien content que ce soit interdit en Amérique, parce que du coup, il avait pas pensé à traverser la frontière, et on a pu récupérer des vignes. Toutes les vignes françaises sont des vignes américaines, en fait.
Chut. C'était des vignes françaises à l'origine aussi.
Oui, elles ont fait un aller-retour.
C'est comme toi, de temps en temps, tu vas en vacances et tu reviens.
Ah oui, oui, voilà, oui, c'est ça.
Même avec les parasites.
Ouais, enfin, si tu veux, par contre, les mecs qui disent que le vin californien, machin, c'est de la merde parce que la vigne n'est pas la même, c'est un peu de la connerie quand même, quoi.
Éventuellement, tu peux dire climat.
Ouais, mais faut faire attention aussi au capricorne monochame du pain, parce que ça, des fois, il y en a. Hein.
Monochame du pain ?
Ouais.
C'est dans le pain ? Ça n'a rien à voir avec le chameau ?
Moi, j'ai pensé à certaines personnes qui pouvaient vraiment avoir des problèmes pour traverser. C'est, imaginez, vous êtes curé, vous avez une sœur qui est aussi dans la religion. Alors, vous aimez beaucoup les meubles en ébène, donc vous avez ramené juste un petit coffre en ébène. Hein. Vous avez, bon, Vous avez quelques problèmes. Déjà, vous avez, c'est vrai, il faut l'avouer, ça vous est arrivé de pêcher par gourmandise, par bon, quand même pas des pêchers très graves, mais bon, un petit peu quand même. Vous êtes bourguignon, donc forcément vous aimez les escargots. Et puis vous vous êtes pas lavé les fesses il y a pas longtemps. Et ben oui, sachez que vous aurez du mal à entrer au Canada parce que le Bombyx moine est interdit, la nonne aussi, le cul noir aussi, le bois noir est interdit, l'escargot petit gris aussi. Et encore, je vous ai pas parlé de la spongieuse parce que non, on n'a pas le droit non plus. Donc ceux qui ont soif.
T'es en train de nous dire qu'ils te regardent les fesses quand tu rentres au Canada à la frontière.
C'est écrit, hein. Cul noir interdit.
Comment ils cherchent les parasites? Ils mettent tout le monde à poil ou quoi?
Je pense que comme c'est des parasites des plantes, je pense qu'ils mettent pas grand monde à poil. À ma connaissance, en fait, pour interdire les parasites, c'est très simple. On interdit un certain nombre de plantes qui risquent de les transporter. Mais en fait, là, il y avait la liste, hein, c'est tout.
En général, t'as absolument pas droit. Enfin, dans tous ces trucs-là, tous les pays un peu parano, t'as absolument pas droit aux produits frais, en fait. C'est-à-dire que t'amènes n'importe quoi de frais, c'est interdit. T'as le droit d'amener les gâteaux secs et
non,
tout.
Non, mais même pas.
N'importe quel fruit, tout, c'est interdit.
Non, moi, aux États-Unis, ils ont du mal, même avec. Moi, je me suis fait refuser un Mars avant de monter dans l'avion. Et pourtant, un Mars et ça repart.
Pour un Américain, c'est un produit frais.
Parce que c'était un Mars du terroir qui avait été fait dans une ferme française.
Mais je sais pas, mais ils voulaient même pas ces trucs-là. C'était impressionnant, quoi.
Oui, mais le Canada est un peu moins casse-burne avec ces trucs-là parce que là-bas, on peut acheter des fromages au lait cru et trucs comme ça.
Tu rigoles, le Canada, la douane, c'est parmi les plus cons.
Ouais, non, mais c'est là qu'on allait se ravitailler en fromage au lait cru. Nous, on traversait la frontière américaine, on partait au Canada, on achetait nos bons fromages français.
Moi, je vais voir mon voisin.
Et on revenait.
Ah oui, si, ils peuvent quand même vérifier des choses sur nous, parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est
il y a sous les chaussures.
Un quelque chose qui est interdit, c'est la carinène. Donc je vous préviens, vous faites ouvrir la bouche maintenant quand vous allez au Canada.
Hein. Une carinène. C'est une petite carie, c'est...
Je sais pas.
Je
vous ai dit que je mettais
pas la carotène, c'est une petite carotte. Hein.
C'est comme si vous m'aviez demandé ce que c'était qu'un phytoplasme, je vous aurais dit demander à Béa.
C'est quoi un phytoplasme, Béa?
Alors, il y a un mot qui plaît à Florence, donc on va passer parce que ça va pas être très intéressant, les phytoplasmes. Florence adore le virus du sommet touffu de la pomme de terre.
Le sommet touffu de la pomme de terre.
C'est pas poétique,
c'est
ça, mon ami.
C'est intéressant, moi j'aime bien la poésie.
Il y a aussi un truc qui m'a marqué dans les parasites, c'est qu'ils interdisent, donc au Canada, ils interdisent la mouche des cerises, la mouche du bleuet, la mouche de l'airel, la mouche de la pomme. Ils ont même pas pensé à interdire la mouche à merde.
D'accord.
Vous vous en voulez encore? Parce que j'ai toute une liste. Hein.
Allez, vas-y, encore.
Stop ou encore?
La flavescence dorée de la vigne rougeau.
Toi, tu veux te faire applaudir quatre fois.
Florence, vas-y.
La petite tordeuse de la grappe.
Ah oui, c'est vrai que j'ai bien aimé tous les noms.
Ah, on te reconnaît bien là.
On n'a pas trop le droit de se balader avec des chancres, surtout s'ils sont gréméniéliens. Gréméniéliens, c'est pas facile à dire. Hein.
Toi-même.
La rouille grillagée du poirier est interdite. Donc si vous avez une grille en fer, j'espère qu'elle est récente, sinon vous ne pourrez pas l'amener au Canada avec vous. Ah, le virus de la frisolée de la betterave, bien entendu, oui. Attention,
c'est
interdit.
C'est une crudité, ça, en fait.
Le virus italien latent de l'artichaut. Je ne sais pas si vous connaissez l'artichaut, là, le petit artichaut de Dragueur, là, qui arrive avec son virus latent, là, son virus italien latent.
Bah écoute, je sais pas.
Là, on sait pas. Hein.
Là,
on est vachement du moi,
il y aura un nom aussi compliqué que ça, c'est sûr que j'aurais tendance à interdire le machin, quoi. C'est vrai que quand tu t'y connais pas trop, t'es douanier, tu dis oula, ça m'a l'air lourd.
Et puis ça a l'air d'être quand même des gros flemmards au Canada parce qu'ils interdisent la fourmi laborieuse. Non, pas laborieuse, récolteuse, mais enfin bon, ils interdisent les travailleurs.
Non, mais sans déconner, je disais tout à l'heure, mais nettoie sous les chaussures quand t'arrives.
Sans déconner. Ils font ça sérieusement.
Ça tombe bien, j'ai marché des pieds droits il y a pas longtemps. Je vais aller au Canada me faire nettoyer.
Au Canada, tu vas passer sur des tapis, puis ils te désinfectent tout. Des fois que tu auras mis le pied dans.
Ouais, mais ça, c'est quand t'arrives pas du sol américain. Parce que quand on a fait États-Unis, Canada, on nous a pas emmerdé avec ça. Hein.
Ah, mais bien sûr.
On aurait pu arriver avec toutes les merdes américaines.
Regarde comment elle se la pète. Ouais, quand on arrive du sol américain, machin, on passe tranquille au Canada.
Non, mais c'est vrai, c'est pas leur problème. Si tu veux, il y a les immigrés qui sont pas désirés, puis les autres.
Non, par contre, quand tu passes la frontière Mexique et États-Unis, j'ai testé pour vous, t'as intérêt à avoir un passeport en fait.
T'as intérêt à pas avoir trop bronzé, sinon c'est carbonisé, ouais.
Mais nous, on est passé, mais on était dans une voiture de location américaine.
On dérive.
Sinon, bah, moi je vous raconte ces vacances, on n'a pas fini. Je suis en train de lire un bouquin sur l'histoire des États-Unis, c'est vachement bien hein, si vous vous intéressez à la frontière mexico-canadienne.
En parlant de littérature. Enfin, bon.
Oui, vous savez, cette espèce d'énorme frontière qui est là comme une verrue sur le planisphère.
C'est quoi la verrue que t'as entre les deux épaules? Oh, bah c'est ta tête.
Je suis désolé pour ton verre, pour toi, qu'il y ait eu des gens qui t'aient dit ce genre de choses quand tu étais jeune.
Non, on me l'a pas dit. Moi, je l'ai dit, par contre. Enfin, bref. Continue.
Ah, d'accord, mais
merde. Toute ta poésie.
Je vais pas tenir 10 minutes là-dessus, je pense.
Oh, bah c'est trop tard.
Alors, après le gendarme à Saint-Tropez. Le gendarme à Saint-Tropez, je ne sais pas s'il a le droit d'aller au Canada, mais l'agent de la Rosette du Pommier n'a pas le droit, en tout cas, ça c'est sûr. En plus yaourt, il y a le virus bulgare latent de la vigne.
Interdit. Du yaourt au vin ?
Moi, je me demande, tu sais, on voit des fois sur, enfin, j'ai vu ça, des pages où ils te permettent de faire du, tu sais, des générations de phrases automatiques, par exemple des pipotrons, des machins, des trucs.
Des quoi ?
Le pipotron, t'as déjà vu ça ?
Je connais pas, donc.
À bientôt le par.
C'est quoi ce truc-là ? Le pipotron ?
Le pipotron, ouais, c'est des trucs.
Tu
remplis les trucs, enfin, tu donnes une combinaison, machin, au hasard, tu choisis des trucs au hasard, puis il te sort des phrases à la con, du genre, bien que la conjoncture actuelle soit formidable, il est nécessaire de prendre des mesures, incessamment sous peu. Puis, en fait, il te génère des phrases à la con, comme ça, jusqu'à plus
ça. En gros, tu fais des cadavres exquis.
Ouais, exactement. Et en fait, mais je me dis que ça devrait être possible pour ce genre de truc là, pour faire des parasites interdits au Canada, ça doit se générer sans problème.
Ah oui, oui, oui. On invente des. Ouais,
franchement, je suis sûr que t'arrives à les faire interdire, mais facile quoi.
On peut créer un faux institut de recherche biologique, inventer des noms de parasites et puis balancer tout ça et voir si ça se retrouve pas sur la liste.
À mon avis, c'est facile parce qu'en plus je vous ai écrit qu'une quarantaine de noms.
Ouais, puis hésite.
Hésite.
J'hésite.
C'est une private joke.
Oui.
Enfin, vu les auditeurs qu'on a, c'est pas très privé.
On les connaît tous, non ?
Sinon, c'est quand même aussi des sacrés puritains, ces Américains. Et n'en déplaise aux Canadiens que je connais, ils sont aussi Américains du Nord. Parce qu'ils interdisent aussi l'orgie de la pomme. Alors franchement, deux pommes, tu fais pas un film X, même de Max Pécasse.
C'est parce que t'as jamais vu, c'est terrible. C'est une vraie
vu
boucherie.
La fiche de Moki des saisons du plaisir. Hein.
C'était une poire.
Oh, bah, ils ont l'air d'en vouloir énormément à la pomme et à la poire, hein, avec tout ce que tu nous as cité là.
De toute façon, moi,
ça revient beaucoup. Hein.
J'ai pris la page sur les...
La pomme et la poire, d'accord.
Sur les parasites des plantes. Par exemple, il n'y a pas la tique, il n'y a pas tout ça, forcément.
Mais
vous savez qu'il y a des mythes sur les plantes des fois, parce qu'il y avait des mythes.
Ils veulent pas que tous nos parasites viennent chez eux, mais les leurs, ils les laissent partir ou ils les gardent bien
Écoute le top 50, tu verras s'ils les laissent partir.
D'accord.
Y a un quelconque rapport avec Linda Lemay ou j'ai rien compris, moi.
Linda Lemay, j'aime bien encore, ça va à peu près.
Moi aussi, mais ça.
Mais c'est la seule
pas
qui
dire,
braille pas.
Dire des méchancetés, hein. C'est gratuit.
Non, il y a Charlebois aussi qui est bien.
Il est bien, en plus il fait de la bière, ça comme.
En plus il a arrêté de chanter, alors ça c'est bien.
Il fait de la bière.
Bah si j'ai passé mon temps, ça tombe bien parce que je vais pas citer des parasites pendant 2 heures, je suis sûr qu'on a perdu nos 5 auditeurs déjà.
C'est dommage, c'était fort plaisant. Mais sinon, bah merci beaucoup, hein. on va l'applaudir une première fois. On va l'applaudir une deuxième fois. Non, ça fait saturer le micro. On va la rapplaudir.
De toute façon, de manière générale, tous les parasites susceptibles d'être justiciables sont interdits. Donc, ceux de plus de 18 ans, tout ça, au Canada, ils n'ont pas le droit de venir.
D'accord, ben on l'applaudit, on en restera là. Sur cette touche de bonne humeur, merci. Merci beaucoup. Et nous allons passer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
C'est pas le plus drôle.
Aïe, 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 mes fiches. J'ai perdu mes fiches. Mais je le sais, hein, mais je regarde quand même mes fiches, on sait jamais.
Je suis en face de toi. Hein.
Ouais, mais je vois pas, il y a mes fiches.
Il est un petit peu sénile, ton frère. Il a du mal avec les fiches.
Alors, c'est Numa. Parce que la dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit Manu. Et je m'en excuse auprès de Manu, d'ailleurs. Donc, Numa, à toi, range tes cigarettes et parle.
Excusez-moi pour mes cigarettes. Alors donc moi je vais vous parler
dans le micro.
Dans le micro, c'est pas mal. Hein. Alors d'un problème vraiment très grave, à savoir de toutes ces bestioles qui risquent de bouffer nos livres dans nos bibliothèques. Donc à savoir tous les rongeurs, les insectes, les micro-organismes, etc., les moisissures qui peuvent détruire les bouquins. Alors donc ça bouffe les pages, ça les réduit en poussière, ça peut les tacher, donc ça c'est pas trop grave. On peut avoir des auréoles un petit peu comme en dessous des bras. Ça peut détruire les reliures, les couvertures, un petit peu tout ça, et surtout, ça peut être un petit peu plus grave, ça peut propager des maladies, voire des allergies pour certains, ça peut piquer. Un truc aussi vraiment très grave, c'est vous ouvrez un livre et là et vous mettez les doigts dans une crotte, voire de l'urine d'un animal qui a déféqué passablement dans votre bouquin.
Ce sera pas mon chien en tout cas.
C'est des plus petits, on y vient.
Alors, mais par contre, tout ça, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que le Reader Digest est un parasite? Parce que le Reader Digest, il prend un bouquin de 300 pages, il le transforme en un bouquin de 100 pages, il en fait de la merde, et puis il te le vend quand même, mais en plus, il propage la bêtise.
Oui, mais t'es pas obligé de l'acheter, t'es pas obligé de le lire non plus.
Voilà.
Ben voilà. Alors donc ça attaque les livres, donc ce sont des rongeurs, des insectes. Alors donc c'est là où c'est rigolo, donc on a les blattes, on a les poissons d'argent, j'ai noté le nom parce qu'il était rigolo.
Les
on
poissons a... d'argent.
Oui, c'est joli. Des coléoptères.
Mais c'est quoi
des...
C'est un petit insecte qui bouffe les livres.
Voilà.
C'est un des pires fléaux.
C'est un des pires, c'est une vraie fléau.
Et pourquoi tu jettes tes bouquins dans l'aquarium?
Alors il y a aussi donc les termites, les mites, les poux des livres. Alors donc ça c'est facile à savoir pour repérer le poux du livre. Vous prenez un livre difficile, vous l'ouvrez, si vous vous grattez la tête, c'est qu'il y avait un poux du livre dedans. Alors donc, le poisson d'argent d'abord, parce que déjà c'est un joli nom. De son vrai nom latin, donc Lepisma saccharina, donc faut se méfier, faut faire gaffe, faut pas le foutre dans le café, pour c'est pas un succès d'année de sucre, hein, c'est autre chose, sinon ça va être dégueulasse. Donc alors donc on va le voir, donc ici donc sur la figure 1. Voilà.
C'est ce truc là.
Oui, oui, c'est lui là.
Oh, c'est pas possible, ça ressemble à rien.
Si. Donc, comme vous pouvez le voir,
il est
long.
Il est pas argenté.
Non, il est long et mince, en ouais. forme de carotte, avec un renflement du côté de la tête.
Et, ça me rappelle quelque chose. Ça.
Il est donc, orange.
Non. Et il a l'arrière du corps qui s'affine.
Ce qui serait bien, c'est que tu scannes ta figure 1 et que tu la mettes en ligne sur le site une fois que l'émission aura été enregistrée.
Oui, dès que je l'aurai trouvé. Donc, il s'appelle poisson d'argent parce qu'il ressemble visiblement, n'est-ce pas, à un poisson. Alors donc lui, il bouffe plein de trucs, notamment le papier, la colle. Souvent les parasites, ils aiment bien manger de la colle. Lui, il mange le papier peint, le placoplâtre. Alors ça, c'est rigolo quand même. Un truc qui bouffe le placo.
Ah, mais il sort des livres alors de temps en temps.
Eh ben un petit peu pour aller manger le placo plâtre. Alors mais aussi oui, parce que ça c'est quand même bon de le savoir, parce qu'il mange aussi le fil d'Écosse. Donc faut se méfier des chaussettes pour garder ses chaussettes quand on a des chaussettes en fil d'Écosse.
Les Burlington.
Non.
Ou pas de pub.
Il mange le coton, donc il fera des trous aussi dans vos caleçons. Voilà. Alors ensuite on en a d'autres, donc la Thermobie, voire figure 2. Alors donc celui-là il a une petite particularité.
Comment il s'appelle déjà?
La Thermobie.
La Thermobie.
Voilà. Voilà. Et donc celui-là il est lucifuge.
C'est-à-dire qu'il lucifuge?
Non, c'est-à-dire qu'il fuit.
Il mange de la lumière.
Il fuit la lumière, non, il se casse. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'est pas facile à repérer. Alors après, on a d'autres. On a l'azioderme du tabac.
Je suis en train de me poser une question grave. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour chaque type de parasite, quel est leur type de littérature préférée, qu'on sache si on a plus de risques quand on a des romans policiers, par exemple, chez soi? Est-ce qu'on a plus de risques avec les poissons d'argent qu'avec les lanternes?
Si on avait qui aimait bien le Proust, ça m'arrangerait.
Bah, visiblement, il y en a qui aiment bien le Prout, parce que...
Moi, j'ai des collections Harlequin, je ne me suis jamais fait bouffer.
Ça viendra plus tard, ça. Alors après, donc l'azioderme du tabac, c'est sur la figure 3. Alors donc celui-là, c'est un coléoptère de couleur cannelle.
Un coléoptère de couleur.
Il est coléoptère. Donc il est couvert d'une pubescence blonde.
Oh, waouh! Wow. C'est un vrai blond.
Oui, non, une pubescence blonde. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fin de compte, c'est un poil ras et. Ras et court. Un petit peu comme un bidasse, quoi. Donc on peut très bien dire à un militaire qu'il est pubescent, mais il faut pas lui dire trop fort.
Fallait le dire que l'émission c'était pas un spécial parasite, mais un spécial bourrin.
Enfin bon. Et donc cet animal-là, il mange plutôt pas le chien de Mickey, mais mais le dos des reliures des livres et la colforte. Alors donc maintenant on
la
va
colfort.
La colforte. Pas les alcools.
Mais maintenant on est vivant, on touche pas, plus le genre de truc.
Non, ils la sentent pas, non. Alors donc après, on a les blattes. Alors là, c'est rigolo parce qu'ils ont trouvé plein de noms pour les blattes. Alors donc on a les blattes australiennes.
Une bonne blatte, ça fait toujours rire.
Ça fait toujours rire, une bonne blatte. Les blattes germaniques. Voilà. Et surtout,
ah, celles-là, elles sont musiciennes.
Et elles sont vachement rigoureuses.
Elles sont pas drôles, ouais.
Non, elles sont pas drôles, non. Et surtout la blatte américaine, quand même.
Voir ah! Ça fait des mois et des mois qu'il me parle de la blatte américaine. On a fait le thème simplement pour qu'il nous parle des blattes américaines. Et vous, c'est juste là. Moi, ça fait des mois et des mois qu'il m'en parle, tous les soirs. Vous vous rendez pas compte. Enfin, appréciez.
Donc, la blatte américaine, d'abord, donc, elle est fourbe parce qu'elle se cache le jour et elle sort la nuit pour manger les livres. Donc, elle est comme la thermobie, elle est lucifuge. Alors, par contre, c'est quand même... La plus grosse blatte, c'est un machin qui fait 4 à 5 cm quand même. Donc c'est de la grosse blatte.
On est tranquille avec des livres de poche.
C'est celle qu'on disait qu'en biologie, c'est le cauchemar des étudiants.
Bah oui, c'est la plus grosse.
Elle se fait les dictionnaires, quoi.
Elle peut.
L'encyclopédie, ouais.
Ouais, elle peut, nous, c'est capable de tout, ces machins-là. Alors donc, on la reconnaît parce qu'elle a des jolies ailes. Je sais même plus la couleur, brun rougeâtre. Enfin, c'est sur la figure 4, mais vous la voyez pas.
Alors, faudra la scanner aussi, hein, c'est pas vrai.
Non, il faut avouer que même nous, on a du mal à la voir. Hein.
Parce que t'as mal regardé.
Il faut un petit peu d'imagination, quand même. Alors donc, elle, pour se reproduire, elle pond une oothèque. Une oothèque, alors c'est vachement rigolo, l'oothèque, parce qu'il ne faut pas confondre avec les oothèques, les bibliothèques, les médiathèques, les trucs tech. Enfin, tu te comptes, une oothèque, c'est
les
une.
Meubles en tech.
Les australopithèques.
Voilà. vous avez d'autres trucs en tech.
Les aztèques.
Voilà, les pastèques.
Aztèques bien cuits.
Donc une oothèque, c'est une grosse poche avec des.
Je connais la version contractée, moi, les tchèques.
Ah oui, aussi. Alors, donc voilà, et pond là-dedans. C'était juste pour placer le terme de oothèque, parce que c'est pas facile à placer habituellement dans une conversation normale.
Mais pas un mot qui veut. Hein,
hein.
Ta boîte à œufs dans le frigo, c'est une oothèque.
C'est une oothèque, tout à fait. Bien vu, bien vu.
Pourquoi c'est pas une ovothèque? Parce qu'on dit ovo souvent. On dit ovipare, par exemple.
Ben ça, tu demanderas aux biologistes qui ont pondu un nom à la con.
On dit bien ovomaltine, ça n'a rien à voir avec
les autres. Et tu noteras le terme ouais, pondu.
Le pondu pour...
joli, hein. Joli,
j'ai remarqué, j'ai cherché à faire un jeu de mots, j'ai pas réussi.
Quand tu dis ovipare, en fait, tu détaches l'élément. L'ovothèque, ça fait vraiment comme une boîte, si tu veux. En fait, c'est comme si tu te baladais avec ta boîte 2 sur toi.
Ben moi, j'aurais appelé ça l'ovobox.
Ta boîte de quoi?
Bon, alors on va pas parler de vos courses dans vos magasins quand vous achetez des boîtes d'œufs. Alors donc
des boîtes de quoi?
Des boîtes de capote.
Ah, alors non.
Alors donc ça mange la blatte américaine, ça mange de toutes les couvertures des livres et ça mange les feuilles aussi. Alors c'est super, ça mange pas proprement, c'est-à-dire que ça tranche avec ses grosses mandibules, donc ça mange vraiment salement. Alors ça déchiquette les feuilles et ensuite ça va régurgiter un liquide brun qui est bourré de phéromones et puis c'est le genre de trucs qui dit à tous ses congénères dans le genre
venez là, il y a une bonne bouffe, c'est comme un portable.
Oui, dans le genre là donc t'imagines, t'as une blatte qui vient de bouffer les paradis artificiels. Venez, les paradis artificiels, c'est génial. Par exemple, ok.
Bah, ça m'étonne pas si elle arrête pas de bouffer de la colle.
Bah oui, m'étonne. Ensuite, alors un autre exemple, elles viennent de bouffer l'amour baroque, c'est génial aussi. C'est l'amour baroque, j'aime bien. Voilà, c'est des titres de livres. Donc le premier c'était de Baudelaire et le deuxième c'était. C'est facile. Pour Baudelaire c'est Fastoche, mais pour l'autre c'est un petit peu moins connu, c'est pour ça que je précise. C'est de René Fallet, un écrivain qui est bien.
La soupe aux choux. Fallait pas.
Si, fallait.
La soupe aux choux.
La soupe aux choux, mais il a pas fait que ça. Il a fait aussi le triporteur avec Darry Cole.
Darry Cole. Ah, Max Pécasse, Darry Cole.
Magnifique. Alors, donc,
on y revient toujours.
Tout le temps, tout le temps.
C'est pas lui qui a écrit un bouquin sur un coquillage, bulle ou un truc comme ça.
Pas que je sache, mais il a fait beaucoup de livres et je les ai malheureusement pas tous lus parce que j'ai pas eu le temps. Alors elles évacuent aussi des granules de déjection, donc c'est voir figure 5. Alors la couleur, en fin de compte, ces granules sont de la couleur de ce qu'elles ont mangé. Voilà, donc ça fait 3 à 4 mm avec des stries longitudinales. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est à pas les confondre avec les crottes de souris, voir figure 6. On confond pas là.
J'espère que t'as un bon scanner. Hein.
Voilà, donc alors.
Ah, ouais. Jolie crotte de souris.
Merci. Alors donc pour se débarrasser donc de tous ces de tous ces machins, il y a plein de trucs. Il y a des trucs bestiales, mais il y a aussi des trucs un petit peu plus faciles.
Il y a bégon jaune.
Il y a bégon vert.
Moi j'ai découvert un truc tout con quoi, qui est possible, c'est de pas avoir de bouquin chez soi. On n'a pas de parution de livres.
Faut pas de papier du tout. Et est-ce que ça bouffe le PQ
aussi.
Oh là là.
Ah non, c'est,
oh, ça c'est vraiment... la merde.
Ah bah oui, c'est. J'allais le dire. Donc pour se débarrasser de ces machins, donc il y a tous les pièges à rongeurs habituels. Après, mais par contre, après on peut avoir
des pièges à souris avec le fromage et tout.
Oui, tout le truc à la dynamite quoi, si tu veux quoi. Donc on peut utiliser des régulateurs de croissance. Alors, donc ça c'est des machins c'est sauvage parce que là on déconne un petit peu, mais là vraiment on utilise ça. C'est un truc qui fait que la blatte par exemple, elle va faire des mues ratées et elle va être gênée pour on va l'empêcher de se reproduire. En fin de compte, elle va être gênée dans sa reproduction et plein de trucs comme ça, hyper pas gentil.
Après, parce qu'on a l'air de con si elle, pour se venger, elle te laisse dans ton bouquin un régulateur de fécondité et tout, et que la fois suivante où tu relis les paradis artificiels, tu te retrouves stérile. Ah bah, ça, c'est vengeance de blatte. Hein.
Merci. Donc aussi on peut modifier l'habitat, donc à savoir comme la plupart de toutes ces bestioles aiment bien les environnements avec une humidité maximum. Donc si on diminue l'humidité de la pièce, on va réussir
à. Et le chaud aussi.
Oui, aussi. Alors donc moi ce que je voulais dire aussi, c'est ça c'est un truc rigolo, c'est la blatte américaine. Donc ça j'ai découvert ça. Il y a une grave question, c'est
là. Il y a une image.
Ah. Enfin, il y en a une.
La photo 7.
Ça c'est non, c'est là on s'en fout, c'est la seule que j'ai, on la montre pas en
fait. On la montre pas, d'accord.
Non, on en parle pas.
Il y a pas de photo.
Non, il y a pas de photo. Non. Alors donc c'est la grave question, c'est pourquoi est-il si difficile d'écraser une blatte d'un coup de pied rageur.
D'accord. Hein, pourquoi est-il si difficile d'écraser une blatte d'un coup de pied rageur?
Alors que avec un aspirateur, quand on passe l'aspirateur, pof, la blatte saute dedans.
Ah, saute dans l'aspirateur, même éteint.
Quasiment. Non, quand il est allumé.
Ah,
quand
à cause de ses voilà. Grands récepteurs.
Alors, donc,
hein.
En fin de compte, oui. Donc, oui. Elle a des récepteurs sur
énorme.
Ses pattes. Oui, qui réagissent au mouvement de l'air. Alors, donc, c'est super au point que, contre les coups de savate, mais par contre, contre l'aspirateur, c'est nul à chier. En effet, donc, ça détecte le mouvement du pied qui va s'abattre sur la blatte, mais par contre, l'aspirateur, là, elle va recevoir. Un appel d'air plutôt qu'une poussée, ce qui fait qu'elle va avoir tendance à se carapater vers l'entrée de l'aspirateur.
Donc nous sommes sauvés.
Et voilà. Donc ça c'était super important. Oui, et après, et si vous voulez avoir d'autres informations super bien sur comment se débarrasser des blattes, des moisissures, des champignons, des rongeurs, faudra aller voir sur le site. Je laisserai l'URL de tout ce qu'il faut.
Eh ben écoute,
plutôt une poésie.
Ah ben oui, mais je sais pas, j'ai le temps de faire une poésie.
Le
poème. Donc ça s'appelle c'est une nouvelle rubrique que je viens de créer. Ça s'appelle le poème nul à chier.
D'accord. Ben écoute. Voilà.
Donc le titre.
Tu remercieras Monsieur Nul à chier.
Donc c'est un poème qui.
Bruno Mazur qui a lancé quand même le.
Ah ben oui. Oui
t'as piqué le concept à Bruno Mazur.
Il y a concurrence grave là.
Non, j'en faisais avant, mais visiblement par contre ça m'a.
C'est lui qui t'a piqué les droits. Ouais.
Il a l'air RATP aussi.
Mais maintenant j'ai vachement moins honte d'en faire. Donc ça s'appelle Adèle. Pardon, Adèle. Donc ça commence comme ça. Adèle est charcutière. Possède de beaux jambons, une poitrine bien grasse, en douillette chemise. Cela va de soi.
N'ayant point trop de cervelle à montrer sur son étal, la clientèle d'Adèle à son propos dit d'elle qu'elle n'en a pas, thé de tête. Adèle, la terre à terre, se nourrit de Cartland. Ainsi, la terre à telle Adèle lit. Oula. Son ami Jean Bonneau, qui n'est pas un salami, sans salami lec, pour la séduire, lui offre un bouquet de roses. 7. Et si ce saucisse sèche sur sa copie, c'est pour offrir à sa muse, oh oui, sa muse, la plus belle lettre jamais écrite. Hélas, jamais la lettre d'amour d'Adèle ne sera entre ses mains, car aujourd'hui, elle est morte, Adèle.
Oh là là, magnifique.
Qui a compté le nombre de termes de charcuterie qu'il y avait dans la poésie?
Messieurs, dames,
on
va l'applaudir, non, l'applaudir directement, et pour la première fois ce soir, on va l'applaudir directement une quatrième fois. Merci beaucoup, Numan. Merci beaucoup, tout le monde. On va en rester là pour aujourd'hui.
On va pas avoir une deuxième chronique de Numan.
La prochaine fois. La prochaine fois.
Patate.
Donc, merci beaucoup. La prochaine fois, le thème sera, on ne sait pas encore.
Je parlerai du sexe un petit peu.
Le sexe. Voilà.
Oh, c'est un bon thème.
Prochain thème, le sexe.
On va avoir la main pour dire du mal de la télé si on parle du sexe.
Bah, on n'est pas obligé de dire du mal de la télé, on peut en dire du bien.
C'est vrai qu'on en a dit du bien ce soir, mais bon.
Ouais.
Ouais, un petit peu quand même.
Donc, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Au revoir.
Salut. Bonne nuit.
À la prochaine.